18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Soyez les bienvenus dans votre grand journal sur Europe 1. Deux heures d'infos, de débats et de découvertes pour éclairer notre société avec à la une ce nouvelle manifestation à Rouen, un mois après l'incendie de Lubrizol. L'eurodéputée Karima Delli réagit à l'enquête sanitaire tardive lancée en local. 18h30, interview exclusive à suivre sur notre antenne avec l'une des signataires de la tribune publiée dans Marianne. 101 musulmans qui disent non au voile. Une femme est aujourd'hui menacée, c'est elle qui vient témoigner ce soir. Anonymement. 18h50, une chanson dans la tête.
Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche.
C'est Christophe Maé qui vient de sortir un cinquième album studio. Retour sur le parcours de cet artiste venu du Sud avec Fabien Lecoeuvre. 19h15, il a défendu l'expérimentation en France du cannabis thérapeutique. Proposition votée hier. Il sera avec nous, le député Olivier Véran. 19h30, l'œil de Frédéric Dabi à mi-mandat. 65% des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. Voilà une partie du sommaire de ce 18-20. Merci de nous rejoindre pour le journal présenté par Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h, merci d'écouter Europe 1.
On est là aujourd'hui pour exiger des enquêtes indépendantes, d'avoir réellement la vérité sur ce qu'on respire.
Vous le disiez, Wendy, les habitants de Rouen dans la rue cet après-midi, ils réclament toujours plus de transparence un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Les Anglais sont en finale de la Coupe du Monde de rugby, qualifiés en battant les All Blacks, champions du monde en titre, ce qui a fait chavirer le pays de bonheur, évidemment.
Tous les bras se sont levés, tout d'un coup, on s'est dit qu'on pouvait y arriver et on les a écrasés. Je suis fière d'être anglaise aujourd'hui.
Et puis on passe à l'heure d'hiver cette nuit, à 3h il sera 2h et certains s'y habituent très bien.
Franchement, le passage à l'heure d'hiver, bon, s'y fait très bien. Et puis après tout, c'est pas mal, surtout quand on travaille de bonne heure.
On est ensemble jusqu'à 20h en attendant. Bienvenue à tous.
Europe 1.
Cela fait donc un mois, Fabienne, qu'une partie des stocks de l'usine Lubrizol sont partis en fumée à Rouen. Et pour marquer le coup, aujourd'hui, les habitants sont de nouveau descendus dans la rue.
Manifestation devant le palais de justice de Rouen au lendemain d'une nouvelle visite du Premier ministre qui n'a pas fait taire l'inquiétude sur d'éventuels risques sanitaires pour la population. Pierre Herbulot, vous avez suivi le cortège pour Europe 1 avec toujours ce mot d'ordre et cette exigence des manifestants qui réclament une plus grande transparence.
Oui, plusieurs centaines de Rouennais et d'habitants des villes alentours sont venus réclamer des réponses à leurs questions, à leurs nombreuses inquiétudes aussi, que résume Jeanne. Elle vit dans le centre-ville et a respiré le nuage de fumée toxique il y a un mois.
On est là aujourd'hui pour exiger des enquêtes indépendantes, d'avoir réellement la vérité sur ce qu'on respire, les conséquences pour les riverains, les habitants, les agriculteurs.
Les agriculteurs seront indemnisés, c'est ce qu'a assuré le Premier ministre Édouard Philippe hier, mais il n'a rien dit sur les particuliers. Jacques habite tout près de Lubrizol, il porte une combinaison blanche de protection. Ça fait une semaine qu'il nettoie sa maison à ses frais.
Je suis peut-être à 500, entre 500 et 1000 euros de frais, j'ai pas trop calculé quoi. Ce que m'a répondu l'expert de l'assurance, c'est que tant que l'État n'avait pas fait de déclaration de catastrophe technologique, rien ne pouvait être pris en charge. Ça me paraît absolument pas normal que cette catastrophe technologique ne soit pas déclarée.
Enfin, les manifestants cherchent à maintenir la pression sur l'entreprise et la préfecture. Ils veulent faire de Lubrizol et des usines Seveso l'un des thèmes phares des municipales de mars prochain. De nouveaux rassemblements sont d'ores et déjà prévus dans les semaines qui viennent.
Pierre Herbulot à Rouen pour Europe 1.
Dans 10 minutes, on y revient donc avec mon invité Karima Delli, eurodéputée Les Verts. Ce sont donc les Anglais, Fabienne, les premiers qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Une qualification qui avait le goût de l'exploit.
Et oui, Wendy, car le 15 de la Rose a tout simplement battu les All Blacks, les champions du monde en titre, sur le score sans appel de 19-7. La Nouvelle-Zélande, invaincue dans cette compétition depuis 2007, et forcément à Londres dans les pubs. On chavirait de bonheur, reportage Johanna Chabas.
Coup de sifflet final et le pub s'enflamme. Tout le monde se serre dans les bras, saute et chante sur les tables. Harry, 25 ans, n'en revient pas.
Je me sens super bien. J'aime ces joueurs. Je pense qu'on va gagner cette coupe. C'était comme une finale. C'est l'un des meilleurs jours de ma vie.
Le bar a ouvert dès 7h30 ce matin pour accueillir les supporters. Les pintes de bière et les chants ont accompagné tout le match. En arrivant, Ginny ne pensait pas voir son équipe gagner.
Quand on a mis le premier essai, au bout de quoi, 2 minutes, tous les bras se sont levés. Tout d'un coup, on s'est dit qu'on pouvait y arriver et on les a écrasés. Je suis fière d'être anglaise aujourd'hui.
Le pub est plein, 4 400 personnes sont là. Il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin vers les écrans. Après la victoire, tous les supporters comme Joe sont impressionnés par le niveau de leur équipe.
Du premier match face au Tonga jusqu'à aujourd'hui, on s'est amélioré à chaque match. Là, je n'avais pas vu les Anglais jouer comme ça depuis 2003, c'est phénoménal. On a dominé partout, contre la meilleure équipe du monde, c'est passionnant.
Et pour la finale, Joe va chercher des billets pour aller au Japon. S'il n'en trouve pas, il reviendra à son pub. Londres, Johanna Chabas, Europe 1.
Et c'est donc demain que les Anglais connaîtront leur adversaire. Ce sera le Pays de Galles ou l'Afrique du Sud qui s'affrontent en demi-finale à Yokohama. Finale prévue samedi prochain. On en reparle bien sûr dans le journal des sports dans quelques minutes.
En Californie, plusieurs milliers de pompiers luttent sans relâche contre les incendies ravageurs.
Oui, des incendies qui ont déjà entraîné l'évacuation de près de 50 000 personnes avec de nombreuses scènes de panique, notamment dans les environs de Los Angeles. Yasmine Akatou.
Effectivement, des scènes de désolation diffusées sur les réseaux sociaux à Santa Clarita, à 50 km de Los Angeles. Une vidéo de caméra surveillance montre une mère et ses deux enfants évacués au pas de course. Tout ce qui peut rentrer dans le 4x4 est embarqué, sans oublier le chien. En arrière-plan, la lumière rougeâtre des feux et un épais nuage de fumée grise ont remplacé le ciel. Vous les entendez ? Les enfants sont paniqués. À Santa Clarita, les policiers ont fait du porte-à-porte pour évacuer les maisons. Le brasier s'étend sur 1600 hectares. Seulement 10% du feu a été maîtrisé. Au nord de San Francisco, les pompiers sont aidés par des dizaines de bombardiers d'eau. L'incendie s'étend sur plus de 9000 hectares. Au moins 49 bâtiments ont été détruits. Les spécialistes météo parlent d'un événement historique associé à un temps sec et chaud. Des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h sont attendues ce soir, ce qui va attiser les feux. En prévention, 2 millions de Californiens seront aujourd'hui privés d'électricité. Les autorités locales n'ont pas encore déterminé l'origine du sinistre.
Yasmina Katou, toujours à l'étranger, nouvelle journée de manifestation en Irak avec au moins 6 morts. Des manifestants tués par balles par des gardes après l'incendie de la maison d'un dirigeant irakien. Cette journée de violence fait suite à une nuit marquée par la reprise de la contestation contre le gouvernement. Contestation qui a débuté le 1er octobre avec déjà au moins en moins de 48 heures, près de 50 personnes qui ont été tuées.
En France, mais pas seulement, on va y revenir d'ailleurs avec notre invité. C'est cette nuit que nous passons à l'heure d'hiver, ce qui veut dire qu'à 3 heures, il sera 2 heures.
Et ce qui veut dire que ceux qui doivent se lever demain matin dormiront une heure de plus. Alors on se disait qu'on en avait fini avec cette heure d'hiver, puisque les eurodéputés ont voté sa suppression en mars dernier, ce qui avait donné lieu à une grande enquête où les Français disaient aussi qu'ils n'en voulaient plus. Sauf que depuis, rien n'a bougé. Alors que disent les Parisiens que vous avez rencontrés, Sophie Hachène, de cette heure qu'ils vont encore devoir changer?
Eh bien, vous l'avez dit, Fabienne, le passage à l'heure d'hiver est synonyme d'un peu de sommeil en rab. Et ça, tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne nouvelle, comme Sylvie qui est enseignante.
À vrai dire, j'ai tellement pris l'habitude, parce que ça fait tellement d'années que ça dure. Le passage à l'heure d'été est un petit peu fatigant pendant 8 jours. Et franchement, le passage à l'heure d'hiver, bon, s'y fait très bien. Et puis après tout, c'est pas mal, surtout quand on travaille de bonne heure, ce qui est mon cas.
En mars dernier, plus de 2 millions de Français se sont prononcés sur la question. Résultat, plus de 80% d'entre eux veulent en finir avec ce changement d'heure. Et pourtant, ça continue. Selon Guillaume, il y a peut-être des dossiers plus urgents à régler.
L'Union européenne voulait réglementer ça. Il y avait quelque chose qui était prévu, c'est vrai que ça n'a pas été suivi. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres priorités au niveau social, au niveau économique, le chômage, la propreté, il y a d'autres choses avant.
À partir de demain, donc, il faudra s'habituer au retour des longues nuits. Demain soir, le soleil se couchera à 17h40 et cela peut perturber le rythme, le cycle de sommeil, notamment chez les plus jeunes, estime Michel.
Pour les enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Pour qu'ils puissent s'endormir une heure plus tôt, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et puis c'est plus difficile pour eux. C'est quand même un sujet important.
En tout cas, le changement d'heure semble avoir du plomb dans l'aile. Pour les politiques non plus, ce n'est pas une priorité. Ils devaient y mettre fin en 2021 et pourtant, rien n'a bougé.
Sophie Hachène, on verra dans quel état on est demain soir à 18h.
Voilà une question pour terminer qui va vous surprendre peut-être. Les rillettes du Mans vont-elles devenir un produit de luxe?
Et oui, c'est très sérieux. La faute à la peste porcine, pardon, qui fait des ravages en Chine. Les Chinois, du coup, importent de plus en plus de viande, de porc en provenance d'Europe, ce qui provoque une flambée des cours. Résultat, une hausse des prix de 15% pour le consommateur en France. Reportage au royaume de la rillette, au Mans, forcément, de François Coulon.
Le gros pot là, le rillettes, que je pensais payer aux alentours de 4 euros et quelques. 5,95, ça devient énorme.
Les légendaires rillettes du Mans seront-elles bientôt un produit de luxe, y compris pour les Sartois, dans ce supermarché très bien fourni, Sylvie s'interroge.
Je vous défie de trouver un pot de rillettes en dessous de 5,50 en Sarthe. C'est quand même dingue, on est le pays de la rillette et on paye des prix, mais énormes.
Donc pas de rillettes ce mois-ci?
On va se priver. Tout ce qui est charcuterie, rillettes, pâtés, saucissons, tout a augmenté. Et moi, je travaille dans le ménage, on a tous des petits salaires, de la charcuterie de marque, on ne peut pas, c'est infaisable. Tout a pris, vous regardez là tout de suite, 20, 30 centimes, on n'a rien de temps, on en a marre.
C'est l'épidémie massive de fièvre porcine en Chine qui fait flamber les cours mondiaux de façon historique, renchérissant comme jamais la matière première pour les industriels. Bernard Vallat, président de la Fédération nationale des charcutiers traiteurs.
Les prix ont littéralement explosé, c'est sans précédent, presque 50%. C'est considérable en si peu de temps. Nos industriels sont extrêmement inquiets. Le cheptel chinois est en train de disparaître. Il faut s'attendre à ce que les hausses continuent.
Les prix du jambon, du saucisson et des rillettes n'ont donc pas fini de s'enflammer. Le Mans, François Coulon, Europe 1.
Et voilà une parfaite illustration de l'effet papillon avec la fièvre porcine et d'effet jusque dans les supermarchés.
Oui, l'effet papillon sur le cochon, pauvre bête. Merci Fabienne Lemoyle, à demain pour nous informer dès midi sur Europe 1.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques. Ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Le ciel avec Laurent Cabrol. Vous avez profité de ce samedi. Et bien vous avez bien fait, chers amis auditeurs, parce que ça se dégrade dès demain, Laurent.
Effectivement, Wendy, vous avez raison. Nous avons vécu une belle journée. Nous vivons encore une belle journée. Et c'est fini demain. Pour les deux tiers de la France, nous allons vivre une journée de pluie, un dimanche pluvieux sur les deux tiers nord et sur le petit quart sud, c'est-à-dire tout le bassin méditerranéen, la région Rhône-Alpes. Nous aurons encore du soleil sur le Midi-Pyrénées aussi, mais partout ailleurs. Prévoyez un passage pluvieux de 2 ou 3 heures et surtout les températures en chute libre pour demain. Mon Dieu, nous avions 20 degrés à Paris aujourd'hui, nous n'en aurons que 14 demain. Il faisait 27 degrés cet après-midi à Tarbes, il en ne fera plus que 23. Enfin bref, ça chute. Ça chute. Et pour ne rien arranger, le congé de Toussaint en perspective, au loin, il n'est pas beau.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure sur Europe 1. Dans un instant, Wendy, notre regard va se tourner vers la ville de Rouen.
Oui, de nouveau, après cette manifestation devant le palais de justice cet après-midi, l'État a annoncé hier une enquête de santé. Trop tard, disent les associations. On entendra le sentiment dans un instant de notre invité, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Karima Deli. À tout de suite. Europe 1.
18h13, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Et maintenant, Wendy Bouchard, nous revenons sur cette nouvelle manifestation à Rouen, cet après-midi, devant le palais de justice, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Oui, une manifestation pour réclamer une fois de plus toute la transparence, car un mois après, on ne connaît toujours pas les causes de l'incendie et des questions se posent toujours évidemment sur les conséquences sanitaires et écologiques de cet accident. Bonsoir Karima Deli.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre en studio sur Europe 1, vous qui êtes députée européenne pour Europe Écologie Les Verts. D'abord, une centaine de riverains de l'usine ont décidé de se fédérer en association au sortir des vacances de la Toussaint, donc dans quelques jours, pour faire face davantage aux coûts financiers que les démarches auprès des assurances, auprès des pouvoirs publics peuvent impliquer. C'est une bonne chose ?
Oui, c'est une bonne chose, mais il faut aussi remercier l'association Respire, aussi le travail de Corinne Depage, hein, qui suit les
avocate
populations.
Avocate aussi, de ces populations, oui.
Voilà, et aujourd'hui, ben, y a des inquiétudes, il y a des doutes de ces populations, parce qu'un mois après, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont respiré. Et donc, on peut comprendre justement ces questionnements de ces populations et on est en droit de savoir quelles vont être justement ces conséquences, encore totalement floues, mais aussi bien sur la vie de ces habitants et aussi sur leur environnement.
Vous avez raison de parler des habitants, car les agriculteurs ont été encadrés. La visite du Premier ministre l'a prouvé encore hier avec ce fonds d'indemnisation. Les particuliers, eux, sont encore aujourd'hui isolés dans l'incertitude.
Ils sont un peu isolés. En même temps, cette catastrophe révèle des graves manquements à la législation quand même des installations classées Céveso. Lorsqu'on apprend au fil en plus des journaux, des informations, alors ça c'est un peu pénible. On apprend par exemple qu'il y a des failles de sécurité, que le préfet voulait développer cette industrie encore plus en augmentant le site de stockage et sans aucune étude de danger ni d'étude d'environnement. Il y a des questions et puis moi je trouve que lorsqu'on a un site classé Céveso seuil très haut, ça veut dire qu'il faut en permanence des contrôles et assurer la sécurité. Et donc moi je veux bien que l'État pointe la responsabilité sur Lubrizol, On doit balayer devant notre porte et donc l'État a aussi un rôle dans cette affaire.
On reviendra sur la pétrochimie en France dans un instant. Les riverains, vous le disiez, sont déterminés à faire toute la transparence dans ce dossier. Manifestement, la pression de l'opinion fonctionne quand même un peu, Karim Adeli, puisqu'hier l'État a annoncé une enquête de santé auprès de la population qui vit aux abords de l'usine. Le problème, c'est que cette enquête commence au mois de mars. Vous vous doutez de l'intérêt ?
Mais c'est ça qui ne va pas, c'est-à-dire, moi j'aurais... on aurait voulu que tout de suite on sache, avec notamment des prises de sang, des prises urinaires, etc., pour savoir quel type de produit nous avons. Oui. On sait, vous savez, ce qui est extraordinaire dans toutes les entreprises modernes, on a notamment des fiches où on sait quels produits sont stockés. Là, on ne sait même pas. Vous voyez le cocktail qu'on peut imaginer, que les populations peuvent s'imaginer. En mois de mars, c'est un peu trop tard.
Oui, il faudra réfléchir pour la suite aux enquêtes préalables, adossées peut-être au principe de précaution. Il y a aujourd'hui 150 prélèvements effectués qui ont été quand même satisfaisants dans les entourages. Est-ce qu'il faut chercher le loup partout ou bien quand même faire confiance aux experts qui travaillent en ce moment ?
On peut faire attention aux experts, mais lorsque le préfet dit lorsqu'il n'y a pas de toxicité, alors il pointe un mot un peu bizarre.
Pas de toxicité aiguë.
Voilà, aiguë. Mmh. Ben, aiguë, ça veut dire qu'il y a quand même de la toxicité. Il faut savoir c'est quoi cette toxicité et quels vont être les impacts. Et ça, c'est très important. Quels vont être les impacts sur des conséquences sanitaires, environnementales, sur le long terme. C'est ça aussi qui est en jeu.
Avec les banderoles que Pierre Herbulot a vu passer sous ses yeux pour Europe 1 tout à l'heure, notre passé sans Lubrizol, notre avenir sans le cancer, l'inquiétude évidemment de la population. Il y a aussi des intérêts économiques en jeu. Cette usine, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme parlementaire, Karim Adeli, vous défendez évidemment aussi les travailleurs. Près de 400 personnes qui travaillent chez Lubrizol à Rouen. Le PDG veut que l'usine redémarre assez rapidement. J'imagine que vous y êtes aussi favorable pour l'emploi.
Faire attention, parce que c'est quel type d'emploi ? Je veux dire, si c'est pour avoir... Parce que je rappelle, on ne le dit pas souvent, mais cette société a déjà été prise en flagrant délit d'infraction. Ce n'est pas la nouvelle.
En 2005, et Delphine Bateau à notre place.
Voilà.
À notre place, nous le rappelait.
Et pourtant, elle a été autorisée à tout ça. Et je pense qu'on prend en otage les salariés. Ce sont eux qui travaillent justement dans ce site avec des produits très dangereux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aussi se dire que ce type d'entreprise, il va falloir peut-être plus qu'elles soient là où elles sont, c'est-à-dire au cœur des villes. Donc il y a tout un travail de réflexion à faire. Et lorsqu'on parle notamment de relance industrielle, ça c'est des vrais sujets que la France devrait porter, même au niveau européen, sur qu'est-ce qu'on fait de ces sites demain.
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que la France appartient toujours aux 6 plus grandes puissances de chimie dans le monde. Et la pétrochimie reste une industrie très forte chez nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en débarrasse ?
Il va falloir aussi qu'on fasse de la, ce que moi j'appelle de la prospective. Quelles sont aujourd'hui les industries qui vont marcher dans l'avenir ? Il faut rentrer dans cette transition énergétique. On sait que cette entreprise, il faut le savoir, produit des additifs destinés à enchérir, par exemple, les carburants industriels, etc. Par exemple, personne ne parle de la reconversion de cette industrie, notamment de cette industrie de l'automobile, etc., qui sont des vraies industries, et que demain, malheureusement, il va falloir sortir des énergies fossiles.
Oui.
Vous voyez tout le dispositif en termes de formation, en termes aussi d'adaptation et en termes réellement de création d'emplois.
Et vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes présidente réélue donc de la commission des transports à Bruxelles en tant qu'eurodéputée aussi Les Verts. Je voudrais que vous réagissiez à un autre sujet à côté de ce sujet rouennais. C'est le changement d'heure. Parce que vous vous êtes battu, vous avez voté avec les eurodéputés à Bruxelles pour sa suppression en mars dernier. Rien ne bouge, on a bien compris que ce n'était pas la priorité aujourd'hui de Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on trouvera un jour une harmonie ? Est-ce qu'en 2021, on peut considérer qu'on sera à peu près tous sur le même fuseau horaire ?
On a un calendrier. Le Parlement européen a clairement dit qu'il faut mettre fin au changement d'heure. La Commission européenne a fait une grande consultation, qui est la plus grande, où près de 500 millions d'Européens se sont déclarés pour la fin du changement d'heure à la hauteur de 84%. En France même, on a eu une consultation de près de 2 millions de citoyens qui disent qu'il faut mettre fin au changement d'heure. Ensuite, la vraie difficulté, c'est qu'il faut harmoniser. On ne peut pas mettre fin à au changement d'heure si on n'harmonise pas. Exemple, les Allemands sont plutôt sur l'heure d'été. Là, hier, les Belges viennent dire l'heure d'hiver. Les Français sont plutôt sur l'heure d'été. On ne peut pas avoir un patchwork de fuseaux horaires comme ça en Europe. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord une coordination et faire en sorte que les États membres se parlent. Ils ont jusqu'à avril 2020 pour que le dernier changement d'heure soit ils choisissent l'heure d'été, donc ce sera en mars 2021, ou l'heure d'hiver, octobre 2021.
Bon, vous avez vous aussi envie que ça bouge à la Commission européenne? Pour l'instant, on est dans une sorte de blocage, rejet de la candidature de Sylvie Goulard. Emmanuel Macron a proposé jeudi Thierry Breton, ex-ministre de l'économie, comme nouveau membre français pour la Commission européenne. C'était pas votre choix personnel, Karima Delli, mais
non, mais d'abord, moi, je déplore, et je le dis vraiment, je déplore que la France choisisse un homme à un poste qui était réservé à une femme. Moi, je pense qu'il faut arrêter de reproduire ce que j'appelle la pratique du boys club au niveau européen, c'est-à-dire cette espèce de cooptation de postes entre mâles. Pourquoi je dis ça? Parce que vous envoyez à l'Europe l'image que nous, les femmes, on n'est pas capable d'être commissaire européenne. C'est quand même dingue. Il y a plein de femmes en France qui ont les compétences, qui ont l'énergie. Bah, je sais pas, Laurence Dubiana, on parlait tout à l'heure de Corinne Lepage qui a fait un travail exceptionnel. Il y a plein de femmes qui sont aussi dans une autre vision de ce que peut être aussi la Commission européenne, parce que là, présentée telle qu'elle est, elle est un peu tristoune. Je veux dire, c'est-à-dire on a quand même beaucoup de commissaires qui étaient déjà là. Et moi, j'attends des commissaires qui soient proches des citoyens. L'élan européen qu'on a eu aux élections européennes doit se projeter au niveau de cette commission. Et moi, je regrette que les écolos ne soient même pas à l'appel de cette commission européenne. Oui. Pourquoi ? Mais parce que le message écolo, et on l'a vu lors des élections européennes en Suisse, il est là. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le profil de Thierry Breton, il peut avoir des compétences. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est à la tête d'une grande industrie dans le digital qui s'appelle Atos. Le problème, c'est qu'il a une position dominante dans ce marché-là. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui a une position dominante et on va lui dire « vous régulez le marché ». Là, les questions, on doit se les poser parce qu'il y a des questions de doute. Et ce sera le travail du Parlement.
Le conflit d'intérêts est dépassé. Bon.
Voilà, ce sera notre travail dans les semaines qui arrivent.
On retient vos candidatures de cœur, en tout cas, et les deux femmes
que
vous
avez. Non, mais il y en a plein. Il y a plein de femmes.
Mais vous les avez dit spontanément.
Il y en a plein.
Merci, Karima Delli.
Merci à vous.
Merci, eurodéputée Les Verts, présidente de la Commission des Transports. Et à bientôt sur Europe 1.
À venir, le journal des sports.
Oui, on va revenir sur l'exploit en Coupe du Monde de rugby des Anglais qui ont terrassé le AK des Blacks. C'est All Blacks, à tout de suite.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1. Il est maintenant 18h23. Wendy Bouchard, place au journal des sports.
Toute l'actualité présentée par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Wendy.
À la une, dites-nous tout.
La 11e journée de Ligue 1, deux clubs aux ambitions européennes s'affrontent depuis une demi-heure. Lille-Bordeaux, on sera au stade Pierre-Mauroy dans quelques minutes. Mmh. Quelque chose comme la fin du monde. La presse néo-zélandaise accuse le coup après l'élimination des Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. L'Angleterre est donc l'auteur de ce mauvais tour. Mais bon sang que ce fut beau et magnifique. Notre consultant Eric Blanc est sous le charme de ce coup tactique anglais. Il joue à Bâle, mais on l'attend à Paris. Le dernier Masters 1000 de la saison commence lundi à Bercy. Et c'est la même chanson, ou plutôt la même question à chaque fois. Federer sera-t-il là? Réponse à la fin de ce journal des sports.
On va parler rugby évidemment dans quelques instants, mais d'abord le foot et la 11e journée de Ligue 1 parce qu'il y a un match en cours.
Lille-Bordeaux, on prend tout de suite la direction du stade Pierre-Mauroy pour retrouver l'un de nos correspondants sur place, Sébastien Boé. Sébastien, de quel côté penche la balance? Côté lillois ou côté bordelais?
Eh bien, côté lillois, Lille mène 1-0 alors que c'est la mi-temps au stade Pierre-Mauroy. Le but du LOSC a été inscrit par Benjamin André à la 22e minute. Une frappe puissante à l'entrée de la surface de réparation qui trompe Benoît Costil, le gardien bordelais. Ouverture du score méritée pour des Lillois tranchants qui ont mis beaucoup d'intensité, de rythme d'entrée de jeu. Et pourtant, les Nordistes ont joué ici même il y a 3 jours en Ligue des Champions. Mais ils ne semblent pas émoussés physiquement, bien au contraire. Reste à savoir s'ils vont pouvoir tenir comme ça 90 minutes. Car à 2 joueurs près, c'est la même équipe qui a joué mercredi et qui est alignée. Les Nordistes dominent nettement les Bordelais qui n'ont pas frappé d'ailleurs une seule fois au but en 45 minutes. Pour le moment, c'est bien parti pour le LOSC qui aimerait se relancer après 3 matchs sans victoire en Ligue 1. Lille est sur le bon chemin, c'est la mi-temps. Et donc, mène 1-0 face à Bordeaux.
Sébastien Boé en direct du stade Pierre-Mauroy.
Avec pour cette 11e journée, 5 autres matchs au programme, Christophe.
Lyon-Metz, Reims-Nîmes, Strasbourg-Nice, Brest-Dijon, Montpellier-Angers. C'est 5 matchs à suivre dans le multiplex d'Europe 1 ce soir dès 20h. Et puis en Ligue 2, sachez que 3 a battu Lorient 1-0.
Le foot, mais toujours, mais à l'étranger cette fois.
En Angleterre, Manchester City bat Aston Villa 3-0. La Bundesliga, le championnat allemand, ça va un peu mieux pour le Bayern Munich. Victoire 2-1 des Bavarois sur l'Union de Berlin. Enfin en Italie, la Serie A et la mauvaise opération de la Juventus Turin. maintenus en échec un partout sur la pelouse de Lecce.
Oui monsieur, le ciel peut vous tomber sur la tête et ce ne sont pas les Néo-Zélandais qui vont dire le contraire ce soir.
Non, l'Angleterre élimine les All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 19-7. Au-delà du score, c'est sur le plan du jeu et de l'approche mentale que les Anglais ont fait la différence. En Nouvelle-Zélande, la nouvelle fait la une des principaux quotidiens. La fin du monde, titre le New Zealand Herald. Rien que ça. Les doubles tenants du titre prennent la porte, enfin la petite porte, puisqu'il y aura quand même un match de classement. Pour les Anglais, c'est un triomphe et c'est surtout la victoire d'un rugby intelligent, selon notre consultant Eric Blanc.
Oui, l'équipe d'Angleterre pratiquement a été intouchable parce qu'elle a récité un rugby à la lettre. Ils sont forts mentalement, ils croient en eux. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent pour cet objectif. Ils étaient forts, il y avait de la cohésion. Et c'est une équipe qui défend en meute comme des loups. Ils sont inspirés de la défense des Saracens, qui est le meilleur club d'Europe. Ils se connaissent énormément. Et aujourd'hui, ils sont en finale et ils rêvent bien entendu de ramener cette Coupe du Monde en Europe.
Eric Blanc, consultant rugby d'Europe 1, les Anglais en finale. Mais contre qui? Ce sera l'Afrique du Sud ou le Pays de Galles. Mm-hmm. Les deux nations s'affronteront demain à 10h, heure française.
Le tennis maintenant, le Rolex Paris Master, RPM pour les intimes.
Voilà,
ça commence lundi. Les Français seront là, Djokovic, Nadal également. Mais Roger Federer sera-t-il aussi de la partie?
Pour l'instant, il est chez lui à Bâle où il dispute les demi-finales face à Stefanos Tsitsipas. Le Suisse vient de remporter la première manche. Normalement, il devrait venir à Paris. Il est annoncé, mais la crainte d'un forfait plane toujours. Ce fut souvent le cas par le passé. Cela prenait la forme d'un appel, toujours le dimanche soir. La direction du tournoi a fait avec, sans angoisse. Si, si, c'est Guy Forget qui l'affirme, sans angoisse.
Écoutez, vous savez que l'angoisse est vraiment un bien grand mot. Je ne suis pas dans cet état de fébrilité. Voilà, Roger, pour l'instant, il est en pleine forme physique, il n'est pas trop fatigué. Donc voilà, je suis comme vous, je garde espoir, mais... on s'est souvent parlé le dimanche soir avec souvent des nouvelles un petit peu malheureusement un petit peu tristes. Donc voilà, on va rester optimiste. Pour l'instant, on a les 95% du plateau mondial qui est ici. Avec Roger, ce serait forcément encore mieux.
Guy Forget, le directeur du Masters 1000 de Paris. Et puisque l'on parle tennis à Bâle, donc le finaliste s'appelle Alex de Minaur à Vienne. Dominic Thiem est en finale. L'Autrichien affrontera Diego Schwartzmann qui vient d'éliminer Gaël Monfils. Rapidement, le reste de l'actualité sportive avec le handball, la France qui remporte la première étape de la Golden League en battant l'Espagne au tir au but. 31 partout à l'issue des prolongations et donc 5 tirs au but à 3.
Merci Christophe Lamarre, à tout à l'heure 19h15 pour la suite de l'actu sportive.
Après le rappel des titres de l'info de ce samedi et la météo de Laurent Cabrol, eh bien on refait l'actu dans le grand journal du soir.
Écoutez bien, la femme qui vient s'exprimer ce soir sur Europe 1, signataire de la tribune publiée par 101 musulmans, c'était mardi dans Marianne, contre le port du voile. Une femme qui témoigne et qui est aujourd'hui menacée. À tout de suite.
18h30, la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard.
Et voici l'essentiel de l'actualité de ce samedi 26 octobre. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Un mois après, ils réclament toujours des réponses. 500 Rouennais ont manifesté aujourd'hui devant le palais de justice de la ville pour réclamer plus de transparence sur les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol. Édouard Philippe est en Guadeloupe. Le Premier ministre va tenter d'intensifier la coopération internationale pour lutter contre les sargasses, ces algues brunes qui envahissent les Antilles. 3 jours après la découverte macabre près de Londres, les corps de 39 migrants dans un camion frigorifique. Le chauffeur du véhicule est inculpé ce soir pour 39 homicides involontaires. La crise sociale au Chili au lendemain d'une journée de manifestation historique. Le président annonce un vaste remaniement du gouvernement. L'armée lève également le couvre-feu instauré depuis une semaine dans la région de Santiago. Et puis n'oubliez pas d'ajuster vos montres. On change d'heure la nuit prochaine à 3h du matin. Il sera 2h. On va dormir 1 heure de plus.
Merci Sophie Tussaud. Voici un petit point météo avec vous Laurent Cabrol. On vous retrouve, ça se rafraîchit demain. Il faut que nos auditeurs soient prévenus.
Oh là là Wendy, ça se rafraîchit plus que ça. Ça devient vraiment froid. Et surtout, nous allons vivre une semaine hivernale. Alors on passe à l'heure d'hiver, on vient de le dire. Sophie l'a dit à l'instant. Mais ce sera vraiment une semaine hivernale. Puis dans la mesure où d'abord demain, les températures vont baisser de 5 à 6 degrés sur la moitié nord. Il continuera à faire relativement beau dans le sud. Et puis dans la semaine, progressivement, toute la France sera envahie par un vent et nous terminerons la semaine, c'est-à-dire la Toussaint, sous un ciel quasiment d'hiver, avec des températures qui seront des températures d'hiver. Vous voyez que l'heure d'hiver s'associe maintenant et se conjugue avec le temps d'hiver qui nous attend.
C'est la cohérence de l'actualité. Merci Laurent.
Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1. Cette semaine, 2 tribunes se sont répandues dans la presse autour du voile et la laïcité, Wendy.
101 musulmans de France, hommes et femmes, opposés au port du voile dans Marianne face à 100 élus locaux. locaux qui dénoncent le débat actuel sur le voile, justement, qui pour eux risque de stigmatiser encore les musulmans. Ce soir, on va refaire l'actu avec une femme musulmane qui a osé dire que le voile était sexiste et obscurantiste et qui, depuis, est menacée. Donc, sa voix a été modifiée ce soir. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des signataires de cette tribune et ce soir, nous respectons votre anonymat parce qu'apposer votre nom à ce parti pris vous vaut depuis mardi d'être menacée de mort. C'est bien ça ?
On fait des insultes, des menaces, de la diffamation, de l'intimidation et plein d'autres joyeusetés de ce type-là. Et c'est partagé sur des réseaux proches de ce que j'estime, moi, être des frères musulmans. Quoi qu'on dise, de toute façon, quand on n'est pas de leur côté, quand on ne soutient pas leur discours, on est des ennemis, même en étant musulmans, probablement plus pratiquants qu'eux dans la réalité, dans les faits et dans la spiritualité. C'est infernal. C'est infernal.
D'autant que j'imagine que votre propos, madame, est de dire que ces musulmans ne sont pas et ne seront jamais les musulmans. Il n'y a pas une communauté homogène.
Exactement. Voilà. C'est exactement ce qui m'a plu dans ce texte-là. C'est que moi, je suis musulmane. Je le revendique. Je n'ai pas honte d'être musulmane. Mais je dis aussi que je suis une musulmane progressiste. Je suis laïque. C'est pas antinomique d'être laïque et musulmane. Mm-hmm. Mais ce discours-là, ils ne veulent pas l'entendre. Moi, je suis française. J'aime profondément la République dans laquelle j'ai été élevée. J'ai eu accès à l'école. J'ai eu accès à plein de belles choses auxquelles mes parents n'ont pas eu accès dans mon pays d'origine. Je ne veux pas qu'une autre idéologie vienne s'installer et nous priver de ce que nous avons. Il y a une certaine frange de notre religion qui est radicaliste et qui est véhilitaire, qui est expansionniste et qui est dangereuse. Donc je ne veux pas qu'on m'assimile à ça.
Bien sûr, et quand on prépare un petit peu le sujet, madame, on constate que le voile ne relève pas du culte, par exemple. Ce n'est pas un signe religieux à partir du moment où l'islam n'accepte pas le fétichisme matériel, qui plus est.
Exactement, mais ils sont complètement dans la contradiction.
Personne ne peut dire pour vous qu'on est moins musulman ou moins musulmane, en l'occurrence, et en l'espèce, si on ne porte pas le voile que si on le porte.
Exactement. J'ai des hommes en face de moi qui font des posts sur moi en disant « elle n'est pas musulmane ». Mais je le suis, je le revendique.
C'est un débat qui oppose et qui divise en France depuis maintenant une trentaine d'années. C'est un débat donc assez récent. Mais si on pousse quelques secondes au-delà des frontières françaises, on s'aperçoit que, bien avant Jean-Michel Blanquer, qui cette semaine considère que le port du voile n'est pas souhaitable, Nasser, en son temps, disait la même chose en Égypte, Bourguiba, évidemment, en Tunisie. Donc il y a toujours eu, pour vous...
Le roi Hassan II.
Hassan II, exactement. Il y a toujours eu cette discordance entre les islamistes plus progressistes et les néoconservateurs ?
Exactement. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais vu ça. Enfin, ça n'existait pas. C'est depuis, je suis désolé, c'est les frères musulmans, c'est cette secte-là, entre autres, parce qu'il y a aussi ceux qui viennent du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite et compagnie. Ils ont un projet politique.
Mais les frères musulmans, comment diffusent-ils, madame, justement, comment prêchent-ils et prônent-ils cet islam rigoriste et radical ? Pas simplement dans les mosquées aujourd'hui ?
Ah non, mais c'est sorti des mosquées. La liberté de choix, elle est complètement fausse. Il n'y a pas de liberté de choix, en vérité. Ils me font rire doucement, ces journalistes et autres hommes bien pensants qui habitent dans les beaux quartiers et qui prônent la liberté. Parce que quand vous êtes une femme et que vous vivez dans les quartiers et que sur 10 femmes, il y en a 8 qui le portent, et ben je peux vous dire que la liberté de choix, elle est toute relative. Parce que si vous ne le portez pas, vous êtes insulté, vous êtes mal regardé, vous êtes mis au banc. Et maintenant, ça s'est insinué dans toutes les strates. Partout, dans les écoles, partout, dans les associations, dans la rue. Je me fais régulièrement invectiver sur ma tenue qui n'est pas conforme. C'est à partir de là que j'ai commencé à me dire qu'il y a un sérieux problème, en fait.
Oui, une tenue qui devrait être un marqueur de religion et presque un étendard, quoi.
Ah, c'est... Quand vous arrivez dans un quartier, quelle est la première chose qui vous dit que c'est un quartier de telle ou telle mouvance ? Parce que même, il ne faut pas non plus tout mélanger. Il y a le niqab, il y a la burqa, il y a le voile. On est passé du voile coloré, plutôt gay, plutôt à cette bâche noire qui recouvre la femme complètement dans l'espace public. Le visuel, c'est la femme. C'est à travers le corps de la femme que ces messages sont portés. Je ne dis pas qu'il y en a, elles le portent effectivement par choix, parce qu'elles font partie du projet, parce qu'elles participent au projet, parce qu'elles travaillent avec eux.
Je voulais vous faire réagir sur ce point-là. Dans Le Point cette semaine, il y a un article très intéressant, une enquête sur le rôle des femmes dans la propagation de cet islam rigoriste. Il existe cette influence féminine, justement, des femmes qui sont à la fois douces mais fermes dans la soumission totale à Dieu et qui sont, qui enrôlent d'autres femmes aujourd'hui.
Ah, mais clairement, clairement. Devant les écoles, devant ces femmes-là, c'est des militantes actives. Mmh. Elles me font penser à cette police de la vertu là, en Iran qui est composée de femmes, quand même. Qui frappe d'autres femmes qui ne sont pas voilées un peu. Il y a des femmes qui travaillent pour eux, clairement. Donc quand on les met là sous la bannière, la maman, la gentille maman qui accompagne ses enfants, et bien certaines, non, ce sont des activistes. On les connaît, on les reconnaît, on en parle autour de nous parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'oseront jamais parler. Il y a beaucoup de femmes qui, quand on dit elles le portent par choix, et après on nous ramène une gamine qu'on sent endoctrinée, qui est en mission pour eux, ça me fait doucement rire parce qu'une femme qui le porte sous la contrainte, elle viendra jamais sur vos plateaux vous le dire, c'est clair. Parce qu'il y aura des représailles, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a le quartier. Donc celles qui viennent... non mais voilà, je veux dire, les gens, je sais pas si ceux qui sont de loin et qui voient pas ce qu'on vit concrètement, quand on est au sein du système, moi, ça m'horripile, quoi. Je dis, mais arrêtez de dire n'importe quoi.
Tout ce que vous dites est très grave, et voilà pourquoi vous adhérez à ce texte qui a été publié dans Marianne, 101 musulmans de France opposés au port du voile, objet obscurantiste et sexiste, dites-vous. Je vais terminer avec cette question, madame. Quand Emmanuel Macron dit « le voile dans l'espace public, c'est pas mon problème », est-ce que vous vous sentez abandonnée ?
Ah, mais clairement. Parce que la liberté... elle est toute relative pour certains parce qu'ils se servent de cette cette liberté républicaine pour nous imposer leur dogme liberticide. Et l'espace public est un des premiers lieux où se joue cette bataille parce qu'ils veulent plus. Enfin, les femmes, elles sont invisibilisées, on se sent menacé. Donc l'espace public, je suis désolé, c'est aussi de la responsabilité.
C'est aussi l'affaire de l'État et du président. Voilà. Oui. Vous attendez donc quoi, par exemple, du gouvernement ou d'Emmanuel Macron sur ce sujet?
Non, mais
pour vous protéger aussi.
Là, du coup, c'est plus de l'ordre politique. C'est que dans ces quartiers, on prolifère là, ces dogmes et ces mouvances. C'est parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de misère, je suis désolé de le dire aussi, il y a un abandon de l'État. Oui. Il ne suffit pas de verser des millions de politiques d'euros de politique de la ville et de s'en laver les mains. Il faut voir ce qui se passe derrière. Cette mouvance trouve écoute auprès de certains jeunes, c'est parce qu'effectivement, il y a un terrain favorable. Donc il faudrait que l'État réagisse, il faudrait qu'il reprenne son rôle régalien sur la sécurité, dans les quartiers, simplement. Que l'État réinvestisse les quartiers, mais réellement, pas en donnant de l'argent à des personnes qui ne sont pas contrôlées, qui en font ce qu'elles veulent après.
Merci pour ces mots forts. Vous qui avez souhaité, et on le comprend parce que vous êtes menacé et insulté aujourd'hui sur tous les supports après avoir signé cette tribune dans Marianne que vous pouvez retrouver également sur Internet. Merci madame de votre présence ce soir sur Europe.
Merci à vous, merci.
Et c'est avec une figure spirituelle d'envergure internationale qu'on va poursuivre, Wendy.
Oui, peut-être rassembler même tous les croyants. On parle d'Amma, celle qui étreint pour diffuser l'amour dans le Kerala en Inde où elle habite notamment. Elle a changé la vie des gens. À tout de suite.
Le Grand Journal du Soir, la suite sur Europe 1. On vous retrouve bien sûr Wendy Bouchard pour l'interview découverte. Vous mettez un petit coup de projecteur, même un beau coup de projecteur, sur un homme qui en s'est tant troublé, nous fait du bien.
Oui, parce qu'il nous raconte l'histoire d'une femme pétrie d'amour et de générosité. Elle s'appelle Amma. Les Indiens la regardent comme une incarnation divine, une grande âme installée dans le Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde. Votre livre, qui lui est dédié, vient de sortir. Bonsoir Pierre Lunel.
Bonsoir.
Amma, celle qu'on attendait, voilà la première biographie officielle que vous publiez aux éditions du Rocher, une femme que vous décrivez ainsi, de petite taille, à peine supérieure à celle de Mère Teresa, sa corpulence enveloppée dans un sari, elle souriait d'un sourire lumineux, elle alliait l'amour et la tendresse d'une mère. Ça tombe bien parce qu'Amma, c'est la mère en indien.
C'est la maman, c'est la mère, Amma.
Pourquoi vous êtes tombé sur elle et pourquoi ce livre sur Amma ?
Il y a 25 ans de ça, je l'avais vue dans le Kerala et j'avais par conséquent bénéficié de la première étreinte d'Amma, ça m'avait secoué.
On ne calcule même plus le nombre de personnes. Vous dites près de 39 ou 40 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qu'elle aurait embrassés. Mais c'est sa manière de transmettre le fluide de l'amour ?
Depuis toujours. Vous savez, sa mission, elle a commencé, elle était gamine. Et quand elle avait 9, 10 ans, 11 ans, il y avait déjà des gens plus vieux qu'elle, du village où elle vivait, du village de pêcheurs, qui venaient lui raconter leurs déboires. On n'avait pas pêché assez de poissons, on avait faim.
Elle était la confidente.
Le petit était malade. Elle accueillait tout ça et elle avait spontanément cette façon. Elle prenait les gens entre ses bras et elle les serrait contre elle et elle leur disait des mots comme cela à l'oreille. Ça a été d'emblée cette façon d'exprimer la compassion. Et c'est parce qu'elle le ressentait profondément.
À Châlons en Champagne, car elle est en France, elle, dans le cadre d'une grande tournée européenne, à la fois ce week-end, à Marseille la semaine prochaine, elle prendra dans ses bras un certain nombre d'hommes et de femmes. Mais votre livre nous permet, Pierre Lunel, de voir plus loin que cette étreinte, plus loin que ce fluide d'amour. Tout ce qu'il y a derrière Amma, on se trouve dans une salle avec Amma, on ressent déjà ces vibrations d'amour, très clairement.
Oui, c'est une personne hors norme, c'est une grande figure spirituelle. Les Indiens la considère pour certains comme une incarnation divine. Mmh. La plupart la considèrent comme un Mahatma. On se souvient du Mahatma Gandhi. Mmh. Donc c'est la grande âme. Et sa vie est quelque chose d'inimaginable.
Vous racontez, car vous parlez de spiritualité, d'omniscience aussi, qu'à un moment donné, elle étreint et elle voit, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, elle lui dit « mais tu n'es pas revenu la dernière fois, c'était des années auparavant ». Elle aurait donc ce don omniscient de savoir exactement qui est qui parmi ces 39 millions de personnes qu'elle a croisées dans sa vie ?
Oui.
Ou ça relève du fantasme ?
Ça paraît, quand je vous dis ça, vous allez penser, mais il est...
Ah, c'est écrit, enfin, donc j'ai tendance à vous croire.
Oui, mais moi je le dis parce que je le pense profondément. Je me suis laissé imprégner là-bas de beaucoup de choses. Il y a chez elle cette façon de deviner ce que vous avez dans le cœur. C'est-à-dire, vous venez devant elle avec une idée, mais que vous voulez un peu cacher. Mmh. Elle vous devine. Combien de fois c'est arrivé ? Elle sait ce qui vous anime et elle accueille tout le monde.
Si un miracle survient, c'est parfait avec Amma, écrivez-vous. S'il ne survient pas, c'est tout aussi parfait parce que la grâce peut s'exprimer de bien d'autres manières.
Mais
on n'a pas besoin de demander quelque chose ou d'attendre quelque chose avec Amma.
Vous savez, il y a une chose, une phrase chez elle qui me bouleverse. Un jour, il y a un journaliste qui lui demande « Alors voilà, Amma, tu deviens la personne la plus puissante du monde. Qu'est-ce que tu ferais ?» Alors, elle répond, moi, je voudrais être balayeuse. Comme ça, je pourrais balayer dans le cœur de chacun. Elle dit ça parce qu'elle sait bien que ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question de miracle. Le bonheur, dit-elle encore, il est en vous. C'est vous qui le décidez.
Alors, est-ce qu'on doit parler de religion ou de spiritualité avec Amma ?
Moi, je pense qu'il faut parler de religion. Elle est hindouiste parce qu'elle procède de cette culture multimillénaire de l'Inde qui a produit tellement de saints, de grandes âmes. Mais en même temps, quelle ouverture ! Il faut voir comment elle parle de Jésus. Il faut voir les Noëls en Amrita Puri. Comment, pour elle, c'est la fête des enfants ? Et si vous saviez à quel point l'enfant... C'est sacré pour elle.
On ne lui donnera pas vraiment d'âge, mais on va dire qu'elle a une soixantaine d'années. Amma, biographie que vous publiez, Pierre Lunel, aux éditions du Rocher. Au-delà d'elle, il y a tout ce qu'elle a créé pour la bonne cause. Et ça, c'est du concret, j'aimerais qu'on en parle. Des accomplissements colossaux. Des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, des universités, 47 000 petites maisons individuelles, l'hôpital Amrita en Inde qui a offert pour 85 millions d'euros de soins gratuits aux pauvres. Tout ça, elle le finance comment, Amma ?
Elle a des donateurs, des fondations, des mécènes, des grands mécènes qui donnent de l'argent. Il y a aussi des choses incroyables auxquelles j'ai assisté. Par exemple, à son hôpital, elle a réussi à recruter les meilleurs médecins indiens qui étaient partis dans des grands hôpitaux américains et qui ont accepté de venir travailler chez elle pour des salaires trois fois inférieurs. C'est absolument incroyable. N'oubliez pas également qu'il y a le volontariat. Ces dizaines de milliers de bénévoles travaillent gratuitement. Mais tout ça, c'est de la valeur argent.
Ça me permet de voir qu'au-delà de la prière, de la méditation, Amma aussi est une entrepreneuse, est une femme qui...
C'est voilà, incroyable.
Qui amène derrière elle une énergie.
Mais c'est incroyable. Je l'ai vue parler à des savants. Oui. Elle s'est arrêtée en CM2. Vous imaginez ? Elle parle avec des savants en sciences médicales, en recherche.
Et ça, c'est le point commun avec Sœur Emmanuelle, avec l'abbé Pierre, avec le père Pedro. Ce sont des forces incroyables.
Ce sont des forces invraisemblables. Alors, il y a une dimension chez elle. C'est la dimension enseignement. Elle enseigne en marchant. Mmh. Elle déambule avec les gens qui sont autour d'elle et qui lui posent des questions. Alors il y a la bonne femme qui n'est pas heureuse avec son mari, qui lui demande comment faire. Il y a le type qui a été viré de son travail. Il y a l'enfant qui ne travaille pas à l'école. Plein de questions. Et elle répond à la hauteur de ce qu'est la personne.
Elle ne laisse évidemment personne pour compte. À Châlons-en-Champagne, comme à Marseille, ils seront des centaines, des milliers à attendre leur tour pour une étreinte ou pour un partage. Valérie Darmon le sait bien, notre journaliste ici à Europe 1 pour être bénévole pour cette communauté. Et c'est tout à l'honneur de cette grande femme. Celle qu'on attendait, pourquoi faire ?
Celle qu'on attendait, alors je vais vous dire, c'est très simple pour moi, c'est pas le Messie. Celle qu'on attendait, parce que dans le monde d'aujourd'hui, elle dit, si vous changez votre cœur, vous pouvez changer le monde. Et c'est un travail de longue haleine qui va dépasser sa vie terrestre. Mais c'est le seul chemin à faire. Apprenez à aimer. Et non pas à aimer en disant « je t'aime », mais « je suis amour ».
Ça veut dire qu'elle parle aussi bien aux musulmans qu'aux juifs qu'aux chrétiens,
à tout le monde, si vous l'aviez vue à Assise, chez Saint-François, quand elle est passée là-bas. Elle était rayonnante devant la petite église de Saint-François.
Merci Pierre Lunel. Voilà, on n'en dit pas plus parce que j'aimerais que les auditeurs découvrent les 400 pages que vous lui offrez aux éditions du Rocher, « Amma », celle qu'on attendait avec ce sourire.
Merci beaucoup, Wendy, merci.
Et dans un instant, Wendy, une chanson dans la tête.
Ces mélodies qui nous collent à la peau, celle de Christophe Maé. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Wendy, bonsoir à tous.
Il vient de sortir un cinquième album studio.
Oui, lui qui rêvait, Christophe Maé, finalement, d'être harmoniciste.
Oui.
Et puis finalement, il voulait accompagner simplement des chanteurs, il finira star.
La vie
c'est
d'artiste.
Quelle belle destinée.
À tout de suite.
18h52, vous écoutez Wendy Bouchard jusqu'à 20h. Voici maintenant l'un de nos rendez-vous du week-end, la chronique musicale de Fabien Lecoeuvre.
Avec un artiste du Sud à la une, petit gars de Carpentras, hein, c'est ça ?
Absolument.
Oui, qui chante aujourd'hui pour toute la France.
Oui.
Vous mettez en lumière Christophe Maé ce soir.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ?
Voilà, quel garçon merveilleux. Alors, 3 ans et demi après la sortie de son album L'Attrape-Rêve, souvenez-vous, sorti et vendu à plus de 380 000 exemplaires, avec notamment le tube Il est où le bonheur ?
Ce qui est beaucoup par les temps qui courent.
Hein. Ah non, mais c'est énorme, même déjà il y a 3 ans, 380 000 exemplaires, c'est considérable. Oui. Hein. Christophe Maé a sorti donc hier son 5e album, vous le disiez justement, Wendy, qui a pour titre La vie d'artiste, avec 14 nouvelles chansons, dont 2 en version acoustique, je précise.
Oui.
Alors, le premier single, Les gens, qu'on entend beaucoup d'ailleurs sur Europe 1.
Et déjà pas au travers tout à l'heure.
Et oui, bien sûr, et déjà sur toutes les lèvres. L'album a été enregistré pendant plus d'un mois, on va dire, au studio La Fabrique à Saint-Rémy-de-Provence, pas très loin d'ailleurs de chez Christophe. Et dans ses nouvelles chansons, Christophe évoque d'ailleurs la paternité, puisque vous savez qu'il a 2 enfants, l'un Jules qui a 11 ans et l'autre Marcel, je crois, qui a 6 ans. Et alors, il parle aussi de ses doutes et même d'optimisme, ce qui est bien pour un artiste.
On va beaucoup parler de Sud, justement, et on va s'arrêter ce soir, parce que c'est l'occasion de remettre un petit peu son parcours en lumière en Corse, parce que tout commence en Corse pour lui, finalement. Hein. C'est un peu l'île qui fait son berceau artistique.
Oui, et c'est ça qui est assez magique. Vous savez, il y a toujours des jours comme ça, ou des lieux qui transforment parfois les personnalités et qui transforment leur destinée. Alors pour Christophe, lui, il faisait de la musique déjà au début de sa carrière, depuis le milieu des années 90. Et en 1987, souvenez-vous, vous l'aviez vu tous dans l'émission d'M6, Graines de Star. Et c'est surtout en 2004, justement, en Corse, vous le disiez Wendy, où sa vie bascule. Tout simplement parce qu'il avait décidé de se faire une place dans la musique, mais ça ne marchait pas vraiment. Et puis, donc, il part s'isoler en Corse, à Bonifacio, pour faire une série de concerts dans un hôtel. Et tous les soirs, il chante des reprises de Bob Marley, de Tracy Chapman, ou de Stevie Wonder, bien sûr, pour le plus grand plaisir des vacanciers. Et puis, un jour, le producteur Dovatia va totalement transformer sa vie puisqu'il pousse la porte du bar et comme il veut compléter le casting de la prochaine comédie musicale Le Roi Soleil, il cherche quelqu'un pour justement jouer le frère du roi Louis XIV, interprété par Emmanuel Moir.
Il aura trouvé son roi.
Bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la bouche, tant qu'on peut encore debout monter les marches.
Le Roi Soleil, l'avantage c'est que ça le met vraiment pour le coup en valeur, chorégraphie, comédie aussi, et puis chanson à côté d'Emmanuel Moir.
Complètement, justement, quand Dovatia entend Christophe Maé et son groove si particulier, Dovatia est complètement convaincu. Mais Christophe, pas du tout. Il est peu séduit par l'idée de faire une comédie musicale et jouer le frère du roi Louis XIV. Et puis finalement, Dovatia réussira à le convaincre. Et puis, ça lui ouvrira, surtout ce rôle lui ouvrira, et cette interprétation, les portes d'une brillante carrière avec un premier tube que personne n'a oublié. On s'attache.
2007.
Que l'on s'abandonne, non.
C'est vraiment son tube, hein, Christophe Maé.
C'est le tube qui le révélera véritablement au public. Alors, cette chanson est née dans sa chambre de bonne, de 11 mètres carrés, je précise, à Paris.
Il y en a de 9 mètres carrés, donc c'est pas mal pour une chambre de bonne. C'était du luxe.
Justement, Christophe co-compose la musique avec son fidèle copain et complice Bruno Dandrimont. Mmh. Et pour le texte, Christophe a du mal à trouver ses mots. Alors, il fait appel au célèbre parolier Lionel Florence, qui l'appelle pour lui demander un coup de main. Et en 2 heures, Lionel va écrire des paroles en forme de réquisitoire contre le mariage, évoquant la difficulté des couples à affronter, bien sûr, le quotidien de la vie. Le single sort le 19 mars 2007. Et en même temps que l'album Mon Paradis, et le succès va être fracassant, l'album se vend à plus d'un million d'exemplaires. Vous imaginez, Christophe devient la nouvelle idole des jeunes et toutes les jeunes filles affichent, bien sûr, dans les chambres, punaises dans les chambres, les posters en presse jeune du beau Christophe Maé.
Alors, Christophe Maé qui va sortir ensuite un album assez imprégné d'un autre de ses combats écologiques. Il va ancrer sa réflexion, là encore, dans cette aire du Sud, entre Aix et Marseille, dans cet autre berceau.
C'est exactement ça. C'était une chanson, on va dire, sur l'environnement et la xénophobie. Il faut dire que Christophe Maé et Lionel Florence songent immédiatement à Yannick Noah pour écrire une chanson, évidemment, puisqu'il trouve que cette rythmique, finalement, lui va beaucoup et lui fait penser à l'univers, bien sûr, de Yannick Noah.
C'est vrai, hein.
Et pour l'association d'idées, en tout cas, et puis et les valeurs que défend Yannick depuis toujours.
Écoutez,
il faut le rappeler.
C'est ma terre. C'est ma terre où je m'assois. C'est intéressant que vous évoquiez Yannick Noah, Fabien Lecoq, parce que ce sont deux bêtes de scène. Autant Christophe Maé, il était encore invité de 7h40 cette semaine chez Mathieu Belliard, est très timide, presque un peu mal à l'aise au micro. Autant sur scène, c'est un artiste dingue. Moi, j'ai vu Ramatuel sous une pluie de coussins rouges, il est incroyable.
Il a une dimension exceptionnelle, Maé, sur scène. Il faut aller le voir sur scène. Alors, je sais qu'il commence à tourner là, très prochainement à partir du 14 novembre.
Oui.
Et pour enchaîner dans toutes les villes, il sera au Cirque d'hiver, il va faire également l'Arena à Corotel. Enfin, il faut aller voir Christophe Maé. Et puis alors, c'est surtout, c'est un garçon qui a les yeux qui brillent. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet artiste, parce que j'ai eu le plaisir de le recevoir plusieurs fois dans les années bonheur, vous le savez. Mmh. Et un jour, je lui ai offert, bien évidemment, un pion, vous savez, pour un échiquier, que j'avais récupéré de Bob Marley le 3 juillet 1980, quand Bob Marley s'est produit sur la scène, l'immense scène sur les plaines du Bourget. Et en coulisses, moi je faisais mon sas militaire pour vous avouer tout. J'étais un des responsables de la sécurité. Oui, je sais, ça arrive. Chez les garçons, ça arrivait à l'époque. Et alors, c'est amusant parce que j'avais récupéré ce pion qu'avait jeté Bob Marley à chaque fois qu'il prenait un pion à son adversaire sur l'échiquier. Et moi, j'ai récupéré ce pion, je l'avais gardé longtemps. Et je savais que Maé avait une admiration sans borne, bien sûr, pour Bob Marley. Et je lui ai offert ce pion. Alors, chaque fois que je le vois, il en parle de ce pion. Il a toujours les yeux qui brillent. Et il dit : tu sais, ce pion, avec son accent du Sud que je ne sais pas faire.
Il est
posé sur ma cheminée dans un coin, il ne quitte pas ma maison. Une maison célèbre qu'il avait rachetée à l'ancien patron de l'Alcazar de Marseille. Une maison qui a 300 ans, alors ça l'impressionne. Il a même une cave où je venais chanter Barbara, faire ses répétitions quand elle passait à l'époque à l'Alcazar de Marseille.
Et admirateur toujours de Bob Marley, hein, Christophe Maé.
Évidemment.
Je ne veux même pas imaginer à quoi ressemble votre maison avec des pions de Bob Marley, des trucs que vous avez récupérés partout.
La caverne d'Ali Baba.
Ouais, c'est un peu ça.
Oui, mais j'aime les offrir aux artistes parce que c'est important. Vous savez, il y a cette espèce de transmission qui est très importante. Je trouve que je sais que ça lui a fait un immense plaisir. Alors,
merci pour Christophe Maé.
C'est un bonheur aussi pour lui.
Écoutez, bravo. Son album La vie d'artiste et les gens qui passent notamment sur Europe 1. Merci, cher Fabien. On se retrouve au terme de cette émission.
Avec plaisir.
Pour une petite surprise. On va se retrouver jusqu'à 20h, une heure d'infos, de débat, de découverte. 19h15, le vote d'hier à l'Assemblée pour l'expérimentation du cannabis thérapeutique. On va en parler avec Olivier Véran. 19h30, l'œil de Frédéric Dabi. Mais voici d'abord le journal car il est 19h.
Et soyez les bienvenus sur Europe 1.
Je voulais voir et je trouve que malheureusement, eh bien, on voit l'impact terrible sur la biodiversité, sur l'écosystème, sur l'économie de ces sargasses.
Le journal avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Édouard Philippe, au chevet des Antillais, les sargasses, ces algues brunes qui envahissent les plages, sont un fléau pour les habitants et le tourisme.
Il y a un mois, l'usine Lubrizol de Rouen était ravagée par un incendie. Un sinistre qui pousse les habitants de la région à changer leurs habitudes alimentaires.
Plusieurs enfants d'une école primaire déscolarisés en Loire-Atlantique et ce, après des soupçons de maltraitance psychologique par leur enseignant.
Il n'y a pas un jour où ils ne vont pas à l'école à la boule au ventre. Ils veulent pas y aller parce qu'ils ont peur.
Et puis les victoires du jazz ce soir sur France 5, un secteur dans lequel les femmes souffrent également des inégalités.
Quand j'étais plus jeune, je faisais tout pour pas qu'on voit que j'étais une femme. Parce que je voulais qu'on écoute ma musique plutôt que regarder si je suis gaulée ou pas, quoi.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 jusqu'à 20h ce soir. Europe 1. Édouard Philippe est arrivé en Guadeloupe cet après-midi. Sophie Tussaud, le Premier ministre, va clore une conférence internationale sur les sargasses, des algues brunes dont les émanations sont toxiques.
Oui, c'est un fléau pour les Antilles qui sont de plus en plus envahies. Mathieu Bock, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Guadeloupe. Avant de se rendre devant cette conférence, le Premier ministre a voulu se rendre compte de l'étendue du problème sur le terrain.
Oui, Édouard Philippe a visité un restaurant niché au bout d'une anse, un site jadis paradisiaque, mais aujourd'hui ruiné par des tonnes d'algues échouées sur la plage. Roméo, le propriétaire du restaurant Chez Coco, a dû fermer ses portes. Il a eu des algues chaque année depuis 2011 et il s'est rapidement senti abandonné par les autorités.
De 2011 à 2015, on a géré les sargasses par nous-mêmes.
Les premières que vous avez eues en masse, c'était 2011 ?
2011, exactement. Mais on en a vraiment reçu, par rapport à d'autres sites, on en a reçu chaque année. On n'a pas eu une année sans sargasses.
Le Premier ministre tient alors à rappeler que son gouvernement a pris rapidement l'affaire au sérieux.
Je voulais voir ce que ça produit sur le terrain. Et je trouve que malheureusement, ici, dans cet endroit qui était magnifique et qui, j'en suis sûr, le sera à nouveau un jour, eh bien, on voit l'impact terrible sur la biodiversité, sur l'écosystème, sur l'économie de ces sargasses. Ça ne date pas d'hier. Dès 2017, le ministre de la transition écologique de l'époque, Nicolas Hulot, était venu ici. Il y a un intérêt commun et un intérêt urgent.
Cet après-midi, Édouard Philippe va donc clôturer cette première conférence internationale sur les sargasses. Une douzaine d'équipes de chercheurs ont été récompensées pour leurs idées de retraitement de ces algues. Ils se partageront une somme de 10 millions d'euros pour mener à bien leur projet.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 en Guadeloupe. Les Rouennais sont à nouveau descendus dans la rue aujourd'hui. Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, ils étaient environ 500 rassemblés devant le palais de justice pour réclamer des réponses à leurs questions, mais également pour avoir plus de transparence sur les éventuelles conséquences sanitaires du sinistre. Le gouvernement avait imposé des restrictions sur les produits laitiers après la catastrophe, et ce avant de les lever.
Oui, mais l'inquiétude des habitants va bien au-delà et les pousse à changer leurs habitudes de consommation, comme l'expliquent ce soir Jeanne et Dominique, présentes dans ce rassemblement.
On a beau dire qu'on peut consommer, on est exactement dans la même situation qu'il y a 15 jours. Moi, je regarde absolument d'où viennent les produits et encore, je m'en méfie.
Et on est révolté, hein, moi je suis révoltée.
Oui, parce qu'on a inversé totalement nos habitudes. On avait fait en sorte de consommer local. Voilà. Et puis, moi, écoutez, quand j'achète des carottes, je suis contente quand il y a écrit qu'elles viennent de Nantes.
Ou même
que voulez-vous que je vous dise?
Oui, ou même certains produits, quand c'est écrit Espagne. Moi qui n'achetais pas Espagne. Non, mais je vous assure que...
Il y a une suspicion générale. C'est triste, mais la suspicion y est.
Des témoignages recueillis pour Europe 1 par Pierre Herbulot.
Prenons maintenant la direction de Corçay, en Loire-Atlantique. Un enseignant est soupçonné de maltraiter psychologiquement ses élèves de CE2 depuis la rentrée scolaire.
Oui, des parents d'élèves ont décidé de dénoncer ce qu'il se passe. Plusieurs enfants ont été retirés de l'école Corot. Ils ont également lancé une pétition en ligne pour que l'inspection académique prenne la mesure de la situation. Cet enseignant faisait l'objet de signalements dans le secteur depuis plusieurs années. Pour Europe 1, les explications de Jean-Gabriel Bourgeois.
Il n'y a pas un jour où ils ne vont pas à l'école à la boule au ventre. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur.
Impossible de ne rien faire pour cette maman. Depuis la rentrée de septembre, Luna et Morgane, ses jumeaux de 8 ans, lui racontent les brimades quotidiennes et les punitions qu'ils subissent à l'école.
S'il ne se trompe pas une question, d'office, il était puni. Tu ranges toutes tes affaires, tu n'auras pas le droit de travailler de la journée. Puis tu restes face au mur au fond de la classe. Ma fille, elle a très clairement marqué en plein milieu d'un exercice. J'ai peur de mon maître. Mon fils, il a été moqué devant tout le monde. Il lui a dit que tout le monde écrivait bien sauf lui et que l'on écrivait comme un cochon. Et à partir du moment où l'enfant est moqué et humilié devant tout le monde, il y a bien de la maltraitance.
Avec d'autres parents, Émilie alerte le directeur et l'inspection académique et découvre que les années précédentes, l'instituteur a déjà fait parler de lui. L'an dernier, il fait un remplacement à l'école de Saint-Joachim. Lise, la maman d'Armel, se souvient.
Il est resté qu'une semaine, mais ça l'a quand même marqué. Quand j'avais eu la directrice au téléphone, elle m'avait coupé en me disant bah, « De toute façon, vous n'avez pas besoin de me convaincre. » On a remarqué qu'il avait des comportements et des propos inappropriés.
L'enseignant n'a pas souhaité répondre à nos questions. Titularisé cette année à Corçay, il sera bien à son poste au retour des vacances, déplorent les parents.
Jean-Gabriel Bourgeois, et la pétition en ligne a été signée ce soir par près de 1800 personnes.
Il est 19h06, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Il y a trois jours, les policiers britanniques découvraient près de Londres les corps de 39 migrants morts dans un camion frigorifique. Ce soir, le chauffeur du véhicule est inculpé pour 39 homicides involontaires et également trafic d'êtres humains et blanchiment d'argent.
Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, était à la mi-journée l'invité d'Europe 1. Pour lui, ce drame confirme la nécessité de lutter contre les passeurs.
Oui, c'est l'effroi et la confirmation de la nécessité absolue, non seulement de lutter contre les passeurs, parce que les gens prennent des risques, mais parce que des passeurs font de l'argent sur leur dos, mais aussi de construire des voies d'accès légales, de migration légale, de manière à sortir de ces situations-là.
À l'époque où vous étiez à la tête de l'OFPRA, vous avez vu ces gens courir le risque d'être enfermés dans ces camions frigorifiques. Comment c'est encore possible ?
Parce que vous avez des gens qui fuient la misère, que vous avez des trafiquants qui organisent ces passages, que vous avez des frontières qui se ferment à l'excès, et que dans ces conditions, là, les gens sont prêts à prendre tous les risques avec toutes sortes de possibilités. Soit vous êtes pris dans des réseaux très organisés et vous allez très en amont monter dans des camions et le plus souvent, la prise de risque est moindre. À l'opposé, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont là dans des campements, par exemple à Calais. Ils sont bien moins nombreux qu'il y a encore quelques années, mais ils sont encore là. Ils vont essayer de monter au dernier moment dans les trains et les camions. Et que c'est dans ce contexte-là que les tentatives sont les plus folles et les plus risquées et que les passeurs se font de l'argent.
Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Au Chili, au lendemain d'une journée de manifestation historique contre les inégalités sociales, le président annonce ce soir un vaste remaniement du gouvernement. Si les circonstances le permettent, il annoncera également demain la levée de l'état d'urgence. Et l'armée, elle, a levé aujourd'hui le couvre-feu instauré depuis une semaine dans la région de Santiago à la suite de violentes émeutes.
À la télé ce soir, vous pourrez suivre à partir de 22h30 sur France 5 les victoires du jazz. Au-delà de cette fête musicale, la soirée permet d'aborder un sujet plus sérieux, Sophie.
Les femmes souffrent des inégalités également dans ce secteur. 32% des grands ensembles de jazz ne comptent aucune femme. Ce chiffre provient de la première étude réalisée en France par les professionnels du secteur sur la place des femmes dans le jazz. Les détails avec Angèle Châtelier.
Dans le milieu du jazz, 85% des artistes sur scène sont des hommes. Dans les orchestres les plus prestigieux, quand il y a des femmes, dans 8 cas sur 10, elles sont chanteuses. En coulisses, peu de directrices artistiques ou de programmatrices. Les résultats de cette enquête n'étonnent pas Anne Passeo, qui a pourtant été élue artiste de l'année aux Victoires du Jazz. Elle est aussi la première femme batteuse à avoir été diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle avait 25 ans.
Pour être considérée pareil, il faut faire deux fois plus. Quand j'étais plus jeune, je faisais tout pour pas qu'on voit que j'étais une femme. Parce que je voulais qu'on écoute ma musique plutôt que regarder si je suis égolée ou pas, quoi.
Pour Antoine Beauce, délégué général de l'AJC, association des diffuseurs de jazz, cette enquête a été comme un révélateur.
Ça a été marquant pour moi quand j'ai amené ma fille voir un concert et qu'elle s'est retournée en disant « mais c'est une fille qui joue de la batterie ». Et là, je me suis rendu compte qu'il était fort possible que tous les concerts que j'ai amené voir auparavant, c'était que des concerts avec des mecs.
Les principales solutions, encourager les jeunes musiciennes à faire du jazz et mettre en lumière des modèles féminins. Aujourd'hui, les trois quarts des élèves des classes de jazz en conservatoire sont des hommes.
Angèle Châtelier, donc je vous rappelle que les victoires du jazz sur France 5, c'est à partir de 22h30 ce soir.
À tout à l'heure pour le rappel de l'actu 19h30, Sophie Tussaud.
Été comme hiver, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
C'est l'hiver qui s'installe, Laurent Cabrol, clairement, avec la froidure arrivant.
Bah, pas tout de suite, mais demain. Dès demain, déjà, nous ressentirons ce froid ou cette grande fraîcheur. Et puis, dans le courant de la semaine, eh bien, les températures vont vraiment dégringoler pour en arriver au 1er novembre, le jour de la Toussaint, où ce sera vraiment hivernal. Donc, je le disais tout à l'heure, avec l'heure d'hiver qui s'annonce, eh bien, nous aurons un temps d'hiver. Et il faut bien dire que demain, les pluies seront là sur une grande moitié nord, alors que nous conserverons un peu de soleil sur les régions du sud. Mmh. Quant aux températures, les voici 13 à Lille, demain 14 à Paris. 17 à Bourges, 18 à Dijon, 20 à Strasbourg, 21 à Bordeaux, 23 à Marseille et 24 degrés à Albi. Voilà, ma chère Wendy.
Merci Laurent.
Et merci Laurent Cabrol. 19h10, c'est l'heure du journal des sports, Wendy Bouchard.
Le retour de Christophe Lamarre sur Europe 1 avec du foot à la une, 11e journée de Ligue 1 et un match toujours en cours.
Oui, bientôt la fin, Lille-Bordeaux, on retourne au stade Pierre-Mauroy. Lille menait 1-0 à la mi-temps. Sébastien Boé, les Lillois ont-ils conservé leur avantage?
Eh bien, les Lillois mènent désormais 2-0 face aux Girondins de Bordeaux alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Le premier but a été inscrit par Benjamin André à la 22e. Le premier but sous le maillot Lillois pour l'ancien Rennais. Le deuxième a été inscrit sur pénalty à l'heure de jeu. Là aussi, premier but sous ses nouvelles couleurs pour le milieu de terrain turc Yazice, des Nordistes qui domine largement une équipe bordelaise très décevante et qui vient de frapper au but pour la première fois à l'instant. Frappe repoussée et déviée en corner. Des Lillois qui, trois jours après leur match de Ligue des Champions face à Valence, réussissent un match plein avec beaucoup de rythme, d'intensité et d'engagement. Des Nordistes bien partis pour renouer avec la victoire qui leur échappe depuis maintenant trois matchs en Ligue 1. 2-0 pour Lille face à Bordeaux. Il reste 6 minutes.
Sébastien Boé en direct du stade Pierre-Mauroy.
5 autres matchs au programme de cette 11e journée.
Lyon-Metz, Reims-Nîmes, Strasbourg-Nice, Brest-Dijon et Montpellier-Angers à suivre dans le multiplex d'Europe 1 dès 20h. En Ligue 2, un rappel, 3 a battu Lorient 1-0.
Du foot toujours à l'étranger ce soir.
En Angleterre, Manchester City bat Aston Villa 3-0. La Bundesliga, le championnat allemand, ça va un peu mieux pour le Bayern Munich. Victoire 2-1 des Bavarois sur Berlin. Enfin en Italie, la Serie A et la mauvaise opération de la Juventus Turin, tenue en échec 1-1 sur la pelouse de Lecce.
La saison de ski démarre.
Oui. Et on assiste peut-être à la naissance d'une future star.
Ah, vous l'aimez celle-ci, hein ?
Oui.
Racontez-nous.
Je ne sais pas si elle me fait penser à la chanson de Mrs. Robinson, mais allez savoir. Alice Robinson remporte le géant de Solden en Autriche devant la favorite Michaela Schifrin. À bientôt 18 ans, cette néo-zélandaise n'a pas craqué au moment de s'élancer pour aller cueillir sa première victoire en Coupe du Monde. Autre performance, celle de la française Tessa Worley qui termine 3e, premier podium de la saison pour la numéro 1 tricolore qui avait du mal à réaliser.
Très très contente, c'est vrai que la préparation était bien différente des autres années et puis c'était pas un long fleuve tranquille, donc j'ai pas réussi à construire autant de confiance que d'habitude, donc c'est vrai que je suis arrivée ce matin sur la course avec quelques certitudes mais pas toutes, et j'avais simplement pour objectif de vraiment me faire plaisir et de n'avoir aucun regret sur cette course. Franchement, je m'attendais pas à une telle place, mais je suis tellement contente d'être sur le podium avec cet été, cette préparation un petit peu compliquée, c'est que du bonheur.
Voilà, Tessa Worley, 3e du géant de Solden.
Le reste de l'actu sportive, en bref, Christophe Lamarre.
Le tennis, pas de finale à Vienne pour Gaël Monfils, battu par Diego Schwartzmann en deux manches. L'Argentin jouera le titre demain face à l'Autrichien Dominic Thiem. Et puis à Bâle, l'invité Alex de Minaur se glisse jusqu'en finale. Oui, invité, l'Australien avait bénéficié d'une invitation pour le tournoi. Il affrontera, devinez qui, en finale. Le local de l'étape, Roger Federer, qui vient de battre le grec Stefanos Tsitsipas en deux manches. Et puis le handball, la France remporte la première étape de la Golden League en battant l'Espagne au tir au but, assez rare pour être souligné. 31-1 à l'issue des prolongations et donc 5-3. C'est comme dans le foot. Quand on est à égalité, on tire au but. Sauf que là, c'est pas au pied, c'est à la main.
Et que surtout, ça favorise les Français et c'est pas pour nous déplaire. Merci, monsieur Christophe Lamarre. À demain.
Dans le grand journal du soir sur Europe 1, Wendy, on va parler du cannabis dans un instant.
Oui, première expérimentation l'année prochaine en France et pour 2 ans. Olivier Véran est médecin et député à l'origine de cet amendement. Il nous explique tout ce soir dans un instant.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 19h16, Wendy Bouchard. Au cœur de votre grand journal, vous recevez ce soir le député auteur de l'amendement sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique.
Bonsoir Olivier Véran.
Bonsoir.
Je précise qu'à côté de votre mandat de parlementaire, vous êtes médecin neurologue. Cette expérimentation qui a été votée hier à l'Assemblée nationale, c'est d'abord une victoire pour les malades qui souffrent et qui n'ont pas de traitement alternatif aujourd'hui ?
Oui, c'est une victoire à plusieurs titres. C'est une victoire pour les malades parce que, effectivement, ce sera un apport supplémentaire dans les traitements qu'on peut apporter à des gens qui ont des douleurs qui sont parfois des douleurs absolument atroces et que rien ne vient soulager, notamment ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, les douleurs de névralgie très intenses comme les névralgies faciales, les douleurs liées au cancer, à la radio ou à la chimiothérapie, ou encore les douleurs que peuvent provoquer ce qu'on appelle la spasticité musculaire, c'est-à-dire les crampes musculaires chez des malades qui ont des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques. Mm-hmm. Enfin voilà, c'est dans l'arsenal thérapeutique existant, on espère, on l'expérimente, c'est qu'on n'a pas encore la certitude, on espère que l'usage médical du cannabis viendra enrichir les traitements déjà existants et solutionner le problème pour des malades.
Oui, on va y revenir sur l'expérimentation, Olivier Véran, mais pour être précis dans l'intention justement de ces traitements, on parle aujourd'hui de cannabis thérapeutique, sauf que ces substances ne guérissent pas à proprement parler, elles soulagent en réalité.
C'est pour ça que je parle d'usage médical du cannabis.
Voilà.
Après, c'est de la sémantique, mais oui, c'est effectivement important. Et puis, dans le cannabis, il y a différents principes actifs. Il y en a deux principaux qu'on connaît, c'est le cannabidiol, le CBD, et puis il y a le THC. Le CBD, c'est plutôt un relaxant musculaire. Le THC a plutôt des effets psychoactifs. Et parfois, la combinaison des deux, à différents dosages, permet d'apporter une réponse à des malades pour différents types de maladies.
Douleurs neuropathiques, effets secondaires des chimios, de la radiothérapie, sclérose en plaques aussi. Les épileptiques sont pour certains aussi concernés. concernés, Olivier
oui,
Véran ?
Oui, quelques types d'épilepsie très spécifiques. Ouais, des épilepsies pharmacoresistantes, c'est-à-dire qui résistent à tous les traitements qui concernent l'enfant notamment. Ça, on sait qu'il y a de l'efficacité. Il y a d'autres choses pour lesquelles on ne sait pas pourquoi ça fonctionne.
Oui.
Mais on le subodore, on le suspecte. D'abord parce qu'il y a beaucoup de publications internationales. Il faut savoir que l'usage médical du cannabis est courant dans une vingtaine de pays dans le monde, 17 pays de l'Union européenne. Et puis parce qu'on a des retours patients. Et en fait, moi, tout a commencé parce que je consulte encore au CHU de Grenoble le lundi. Et il se trouve que j'ai des patients qui ont des douleurs comme ça très intenses. Et certains patients ont commencé à me raconter qu'en fait, ils prenaient entre guillemets en automédication du cannabis pour soulager leurs douleurs, avec parfois des effets spectaculaires.
En automédication, c'est-à-dire que ce sont des produits qui aujourd'hui ils se fournissent.
Ils cultivent maison.
Très bien.
Ou ils vont chercher à l'étranger. Ils font ça sous forme d'huile, de tisane. Et en fait, j'ai commencé à poser la question à certains malades qui m'ont dit oui, heureusement qu'on a ça, sinon on ne tiendrait pas. Alors même que ce sont des patients qui ont parfois de la morphine, des antiépileptiques, des antidépresseurs tricycliques très forts, des neurostimulateurs, et pour lesquels on est vraiment en impasse thérapeutique. Il faut savoir que cette pratique existe, elle est cachée, plus ou moins cachée, et elle n'est absolument pas encadrée.
Olivier Véran, on précise que pour l'usage médical et thérapeutique, le cannabis ne se fume pas. C'est sous forme de spray essentiellement ?
Il ne se fume pas, mais il peut se vaporiser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fleurs séchées de cannabis. Mais évidemment, on ne va pas demander aux patients de fumer, il n'y a pas de combustion. Par contre, certains pays fournissent des vaporisateurs qui permettent de chauffer les fleurs de cannabis à température inférieure à celle qui provoque de la combustion, un peu comme le vapotage, voyez. Mais attention, il n'y aura certainement pas ce qui s'est passé aux États-Unis. On ne va certainement pas donner d'huile de cannabis à vaporiser aux patients, parce que ça, c'est extrêmement dangereux. Mais évidemment, le protocole thérapeutique est géré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et qui prévoira plusieurs modalités pour ingérer le cannabis. Effectivement, essentiellement, ce sera sous forme d'huile ou de tisane.
Expérimentation votée hier à l'Assemblée nationale, qui sera donc menée dans des centres hospitaliers. Tout cela sera évidemment très, très encadré. Comment les candidats à cette expérimentation vont-ils être choisis, mais aussi suivis ?
Mais d'abord, il va falloir former les médecins. Ce seront des médecins spécialistes, des neurologues, des spécialistes de la douleur, des cancérologues, qui vont suivre une formation spécifique. Moi, d'ailleurs, je souhaite pouvoir la suivre pour pouvoir être moi-même prescripteur. Et ensuite, il y aura inclusion, c'est-à-dire qu'on va recruter des patients en fonction des critères qui nous auront été fixés par l'Agence du médicament. Dans le cadre de ce protocole thérapeutique, on prévoit à peu près 3 000 malades en 2 ans.
À partir de l'année prochaine.
À partir de dans 6 mois, j'espère.
Oui.
J'espère dans 6 mois. Ce serait bien qu'on y arrive d'ici le premier semestre de l'année 2020. Et ensuite, on va suivre en vie réelle. La première administration se fera à partir de la pharmacie des hôpitaux. Et puis ensuite, logiquement, les patients pourront rechercher leurs produits en pharmacie de ville.
Des traitements et des produits qui seront pris en charge par la sécurité sociale pour ces 2 ans d'expérimentation ?
Bien sûr, à 100%.
Et à terme aussi, si c'est légalisé pour vous aussi ?
Mais en fait, deux choses l'une. On se rend compte que ça marche pas. Fausse joie, échec, alors qu'on a un nombre suffisamment de malades inclus. Et dans ce cas-là, on aura essayé. Mais ce serait très étonnant puisque ça marche dans beaucoup de pays.
C'est ce que j'allais vous dire. Il y a quand même un retour d'expérience européen, vous le soulignez.
Oui, mais je sais que ça va marcher. J'ai pas de doute. Et on va se rendre compte que ça fonctionne. Et si les résultats intermédiaires au cours de l'expérimentation montrent que c'est de façon évidente, il y a un effet positif pour les malades, on n'ira pas au bout de l'expérimentation. Quand une expérimentation est évidente, les résultats intermédiaires, s'ils permettent d'envisager que c'est vraiment une très bonne solution pour un certain type de malade avec un certain type de produit, évidemment qu'on ira vers une généralisation de l'accès pour ces malades et ces produits. Donc c'est ça, une expérimentation, elle permet de regarder. On a des résultats intermédiaires si on se rend compte que les malades sont vraiment soulagés, qu'ils reprennent du poids, qu'ils ont retrouvé de l'appétit alors qu'ils avaient des douleurs liées au cancer, à la radiochimiothérapie. On va pas regarder tous les autres malades qui attendent de pouvoir en bénéficier en leur disant, attendez, il faut qu'on finisse l'expérience, il faut encore 2 ans. Si on se rend compte qu'effectivement c'est efficace, on en donnera à plus de malades.
Il y a les questions de santé qui sont fondamentales, il y a les questions économiques qui sont aussi importantes, Olivier Véran. La question de la production du cannabis récupéré pour cet usage des produits, des pays qui l'autorisent déjà à des fins médicales pourrait vous fournir, le Canada, les États-Unis, Israël, l'Allemagne, l'Italie, mais à terme aussi de la production locale, française, métropolitaine et des territoires d'outre-mer.
Oui, alors, moi, je relativise l'enjeu économique parce que, 1, je ne le fais pas pour ça, et 2, on n'aura pas non plus des millions de malades. On va s'adresser à quelques dizaines de milliers de malades, ce qui ne fait pas un marché, qui fait pas un marché infini. Donc, même à terme, même si l'expérimentation fonctionne très bien, il n'y aura pas un million de Français qui seront traités par cannabis. Donc, en termes d'impact économique, je suis pas certain que l'emballement que je peux voir ça et là se révèle intéressant en pratique.
Si je vous pose la question économique, c'est parce qu'il y a certains aussi qui doutent du cloisonnement du cannabis thérapeutique à la seule fin médicale. Vous êtes bien d'accord pour nous dire ce soir que ça n'a rien à voir avec la légalisation du cannabis récréatif, que c'est un autre sujet et que vous n'allez pas sur ce terrain-là aujourd'hui.
Ce sont deux débats totalement différents. Mmh. J'en veux pour preuve le fait que quelqu'un qui a très mal se voit prescrire de la morphine. La morphine, c'est un dérivé direct de l'héroïne. Et ça fait plus d'un siècle qu'on donne de la morphine aux gens qui en ont besoin. Et c'est pas pour autant qu'on a légalisé l'héroïne. Quand vous avez de la codéine, c'est un dérivé de l'opium aussi. Donc c'est la même plante. Il existe dans la pharmacopée, c'est-à-dire dans les pharmacies, beaucoup de produits qui sont considérés comme des stupéfiants, mais qui peuvent être prescrits pour leurs vertus médicales, mais sans pour autant être autorisés dans la pratique récréative. Donc je cloisonne totalement les deux débats. Ce sont deux débats différents. Oui, voilà. Intéressants les deux, mais totalement différents.
Pour l'usage médical, le cannabis demain pour 3000 patients, expérimentation qui commencera dans les 6 mois. Merci Olivier Véran, vous qui êtes auteur de cet amendement voté hier. Merci, à bientôt.
Au revoir.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir.
Voici comme chaque samedi sur Europe 1, l'écho de la planète. Le journal de l'environnement, c'est avec vous. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Au sommaire, un groupe de députés déclare la guerre aux mégots. On entendra l'oiseau qui a le cri le plus puissant au monde et puis faire son dentifrice à la maison soi-même.
L'idée est lancée, et c'est donc très sérieux, interdire la commercialisation des cigarettes avec filtre.
Et oui, parce que les filtres qui deviennent des mégots sont faits d'un mélange de plastique, c'est de l'acétate de cellulose pour 90% des cigarettes vendues. On en trouve sur les trottoirs, sur les plages. Un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau de mer ou de rivière. Le député écologiste qui a déposé la proposition de loi cette semaine, François-Michel Lambert, explique pourquoi il veut faire interdire la vente des cigarettes avec filtre non compostable au 1er janvier 2022.
C'est en urgence arrêter les impacts environnementaux colossaux des 30 milliards de mégots et filtres perdus chaque année en France dans la nature et qui impactent pour 12 ans l'eau, la nature, les espaces. Avec un filtre compostable, il y aura toujours un impact mais qui sera réduit à 6 mois, voire 3 mois. C'est simplement s'ils sont perdus dans la nature, au moins, l'impact sera moindre.
Alors, il y a aussi un enjeu de santé pour lui. Dans les années 50, les industriels du tabac ont inventé un excellent outil marketing, le filtre donc, et qui laissait croire aux fumeurs qu'ils aspiraient moins de substances nocives.
Et en effet.
Voilà. Or, les députés ne sont pas les seuls à croire qu'il y a tromperie. Des scientifiques américains et anglais viennent justement de sortir une étude dans le très réputé British Medical Journal. Et pour eux aussi, les filtres de cigarettes sont une grave menace pour l'environnement et ils sont inefficaces. Ils servent aux industriels à faire notamment des économies sur la dose de tabac.
Et ils sont des petits outils bien polluants. On suivra tout ça avec vous, Virginie Salmen. Alors, vous nous avez promis qu'on allait entendre en préambule l'oiseau au cri le plus puissant au monde. Écoutez.
Voilà. Bizarre, hein ?
Et quelle taille, ce petit oiseau ?
Étonnant. Alors ça, c'est un oiseau qui fait à peu près 250 grammes. Ça ressemble un petit peu à une colombe. Il est blanc. Il s'appelle l'araponga blanc. Mmh. Et il a été désigné cette semaine comme l'oiseau le plus bruyant au monde. 113 décibels, c'est l'équivalent d'un gros concert de rock. Il vit au cœur de la forêt amazonienne. Vous ne l'avez probablement jamais croisé. Ce qui est amusant, c'est la mise en scène parce que c'est un cri de parade amoureuse.
Oui.
L'araponga pousse ce cri et il se retourne aussitôt comme s'il s'était fait peur tout seul. En fait, les biologistes de l'université du Massachusetts ont décrypté cette gestuelle. L'oiseau chante la première note, puis il opère une rotation qu'ils disent dramatique, presque théâtrale. Et là, il expulse une deuxième note en direction de sa prétendante, celle qui veut séduire.
Incroyable retournement dramatique. On réécoute peut-être ? Je dirais presque un écho, c'est fou. Hein.
Oui, bon, voilà, justement, ce petit parce qu'il oiseau. Se retourne, c'est peut-être ça l'effet.
L'araponga. On termine dans cet écho de la planète par le conseil de votre copine Catherine, Virginie Salmen.
Oui, je vous parlais la semaine dernière de la salle de bain écolo de Catherine, mais je n'ai pas eu le temps de tout passer en revue. Je vous avais promis la recette du dentifrice.
Alors, on vous écoute.
Voilà, elle utilise 3 ingrédients, c'est pas très compliqué. Du bicarbonate de soude.
Recommandé par les dentistes d'ailleurs.
Voilà, de l'argile blanche et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Il faut quand même avouer qu'elle n'a pas réussi à convaincre les autres membres membre de sa famille. Alors elle fabrique aussi son propre déodorant, encore un peu de bicarbonate, de l'huile de coco alimentaire et de l'huile essentielle de palmarosa. Et c'est efficace, dit-elle, même pour une cycliste. C'est économique aussi. Voilà pour le conseil de Catherine Margne.
Voilà pour rendre écolo sa salle de bain et tous les accessoires qui vont avec. Merci, à la semaine prochaine pour l'écho de la planète, Virginie.
Bonsoir.
À suivre, le rappel de l'actu et puis notre rendez-vous gourmand, Wendy,
dans l'ombre des grands chefs. Avec Pierre Herbulot à la découverte de la recette du baba au rhum dans la pâtisserie où il fut créé, figurez-vous, à Paris. A tout de suite.
19h30, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Le rappel de l'actualité pour commencer avec Sophie Tussaud.
Trois jours après la découverte macabre près de Londres, les corps de 39 migrants dans un camion frigorifique, le chauffeur du véhicule est inculpé ce soir pour 39 homicides involontaires et trafic d'êtres humains. Trois autres personnes interpellées sont toujours en garde à vue. Les Rouennais réclament toujours des réponses un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Ils étaient 500 manifestés aujourd'hui devant le palais de justice de la ville pour réclamer plus de transparence sur les conséquences sanitaires du sinistre. Édouard Philippe est en Guadeloupe. Le Premier ministre veut intensifier la coopération internationale pour lutter contre les sargasses, ces algues brunes qui envahissent les Antilles. Le football, 11e journée de Ligue 1. Lille s'impose 3-0 face à Bordeaux. Suite de cette journée à 20h et à suivre sur Europe 1. Et puis n'oubliez pas d'ajuster vos montres, on change d'heure la nuit prochaine. À 3h du matin, il sera 2h. On va dormir une heure de plus.
Sophie Tussaud, merci.
Et le rendez-vous qui stimule nos papilles, c'est dans l'ombre des grands chefs, Wendy.
On le retrouve ce soir dans une pâtisserie parisienne, notre gastronome Pierre Herbulot. On vous suit une fois de plus. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy. On va faire un bond dans le temps ce soir puisque je vous emmène dans la plus ancienne pâtisserie de Paris. J'ai nommé Storer. La maison existe depuis 1730. Son fondateur Nicolas Storer était le pâtissier favori de la femme de Louis XV. Bref, un endroit chargé d'histoire et aujourd'hui dirigé par Geoffrey Cagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez nous faire une spécialité, je crois même la spécialité de la maison.
Alors oui, on va vous faire le fameux baba au rhum de la maison Storer, qui a été quand même inventé par Nicolas Storer, faut le savoir.
Voilà, le baba au rhum qu'on trouve partout aujourd'hui.
C'est ça. Alors déjà, on va commencer par la pâte. Donc il nous faut de la farine, du sel, du sucre, de la levure et des œufs. On va faire pétrir la pâte, un peu comme une brioche, avec un crochet au batteur. C'est ce qui va donner du corps à la pâte.
Donc c'est vitesse lente ?
De toute façon, la pâtisserie, c'est toujours comme ça. Il ne faut jamais accélérer les choses.
Il y a des temps de repos, il y a des temps de froid.
Il y a des temps de pousse, et il y a même un temps pour déguster.
On y viendra.
Donc là, on va ajouter le beurre.
Ah oui, ça y est, elle se décolle là.
Elle commence à se décoller, donc c'est que la pâte chauffe.
Et le là, beurre en fait, coupé en dés.
Le beurre coupé en dés, on le met à température ambiante. Ensuite, après, on va faire le sirop. On prend du sucre sur le moule. On prend de l'eau. En fait, c'est presque un temps pour temps. C'est un kilo de sucre, un litre d'eau pour chauffer et on garde un litre d'eau froide qu'on va mélanger avec le rhum. Parce que le rhum, il faut le mettre quand le sirop est tiède pour pas que l'alcool s'évapore.
Ah oui, c'est ça.
Et dans un baba au rhum, s'il n'y a pas d'alcool, c'est plus un baba au rhum.
Le sirop est prêt, la pâte aussi. Geoffrey Cagne l'a mise dans un moule et l'a laissé pousser. C'est la levure qui travaille. Puis au four, une vingtaine de minutes. Je vous ai mis tous les détails sur europe1.fr.
Alors notre baba est cuit, il est très important en fait d'avoir un sirop qui soit pas trop chaud. En fait c'est vraiment un sirop tiède, donc dans les 30 degrés. Et en fait on va y ajouter dedans le baba. Là on prend le baba et on l'immerge bien. Et là on va le laisser comme ça une dizaine de minutes.
Ah ouais.
En mettant quelque chose dessus pour vraiment qu'il s'imbibe. Parce qu'en fait le baba, vu qu'il est plein d'air, c'est comme un bateau, il va flotter.
Vous disiez c'est une éponge, c'est le temps que ça se remplisse complètement.
Vraiment le temps que ça se remplisse. Alors voilà, notre baba est bien imbibé. Et on va mettre la chantilly. On va lui rajouter de la gourmandise.
Ah oui.
De la crème, de la mascarpone. Donc moi je mets 10% de mascarpone. On va rajouter 6% de sucre glace. Et on va y mettre un peu de vanille. Et là on fouette. Prendre une poche, une douille, mettre la chantilly dedans. Et là, on va dresser des petites rosaces.
Et c'est prêt.
On n'a plus qu'à déguster.
Il est beau.
On y va.
On y va. C'est... Ah oui, mais on a du rhum. Il ressort quand on trempe la cuillère. Mmh. C'est un petit nuage. On le presse dans la bouche. On a tout le rhum qui arrive. C'est incroyable.
Ce qui est important, c'est l'amour qu'on va mettre dans la fabrication du dessert. Et quand on met de l'amour, c'est souvent bon.
Il y a beaucoup d'amour, là.
Là, il y a beaucoup d'amour.
Félicitations, chef.
Merci beaucoup.
L'ingrédient indispensable pour toutes les recettes de cuisine, l'amour, beaucoup d'amour.
Bah oui, vous n'avez pas honte de votre recette à vous, Fabien Lecoeuvre, ce soir?
Oui, parce qu'avec beaucoup d'amour, moi, un jour, j'avais acheté des brioches. Je les ai arrosées de rhum et ça
c'est
venait
plus
de
rapide.
Rhum.
Évidemment, bon, bah écoutez, sinon, la recette, on peut la retrouver.
Non, mais je ne vais pas offenser.
Terreur et la recette du jour.
Voilà, la recette de Pierre Herbulot, on la retrouve sur europe1.fr.
Merci Pierre.
Voici une semaine en Europe 1, les moments forts sur l'antenne.
C'était lundi 8h20, Elisabeth Borne, ministre en charge de l'écologie et des transports, revient dans la matinale sur les perturbations à la SNCF et le fameux droit de retrait des cheminots.
Je vous dis simplement qu'un conducteur de TGV qui pose le sac, alors que ça n'est pas le même matériel, les conducteurs des trains de nuit, je ne vois pas de rapport avec le TER accidenté, et donc effectivement, je pense qu'on n'est pas dans le droit de retrait, et que ça justifie des sanctions.
Mardi, le meilleur de Nicolas Canteloup, alors que le Louvre a travaillé 10 ans pour faire découvrir au public l'œuvre de Léonard de Vinci. Expo ouverte depuis jeudi, déjà 300 000 billets vendus. Et Stéphane Bern, version Canteloup, dans la place.
Peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, surdoué, inventeur, bisexuel et végétarien, on peut ajouter. C'est tout simplement un génie, hein.
Pardon, de qui parlez-vous?
De Léonard de Vinci.
Ah oui, pardon. Non, décidément. Non, je croyais que vous me parliez d'Emmanuel Macron. Inventeur, génie, surdoué, ça pouvait lui aller. Cher Mathieu, ça ne fait jamais de mal de failloter un peu.
Bah, c'est ça.
Vous croisez Constance Benquet, n'hésitez pas. Voir nous la regarder. Il n'y a que sur bisexuel et végétarien que j'avais un doute. Hein. Personne n'est parfait, ça viendra toujours à temps. Hein. Vous disiez, Dame Julie.
Alors, je disais que le Louvre fêtait les 500 ans de la mort du génie Vinci.
Oui, 500 ans, ça date, hein, oui. Il y a 500 ans, les Italiens étaient des génies. Et oui, nous étions en 1480 et des brouettes, et depuis, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Ils nous ont envoyé Claude Barzotti et les Pizza Pino.
Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste.
Jeudi, la lourde actualité des intempéries dans le sud de la France. 3 personnes tuées, dont cette femme de 68 ans à Cazou, d'Hérault, à 45 km de Montpellier. L'émotion du maire sur Europe 1.
Devant chez elle, c'était vraiment un torrent qui s'était étalé sur plus de 200 mètres. Je suis allé la voir parce que je m'inquiétais un petit peu. Je lui ai demandé donc de rester à son domicile, que les pompiers allaient passer. Moi, c'était impossible que je la récupère vu le courant et la hauteur d'eau qu'il y avait. Cazoul est un petit village de 500 habitants. Tout le monde se connaît, c'est une grande famille. Et chaque disparition, c'est bien sûr très douloureux.
Et puis hier, ces paroles de français au supermarché, alors que les chocolats de Noël sont déjà à la vente. Reportage à Chaville, en région parisienne, de Jean-Gabriel Bourgeois.
Les clients de ce supermarché sont unanimes, l'esprit de Noël n'est pas encore là.
C'est complètement débile, quoi. Bientôt, ils mettront les chocolats de Pâques au mois de janvier. Moi, je trouve ça complètement idiot. Puis bon, la qualité des chocolats qu'il y a dans ces trucs-là, moi, c'est pas ce que je mange. Je me mets pas ça dans le bec.
Père Noël en chocolat et calendrier de l'Avent sont en tête des rayons juste devant les caisses. Pour certains, cela permet d'anticiper.
J'en ai déjà acheté un.
Là, cette année, vous avez déjà acheté votre calendrier?
Bah, c'est pas pour moi, c'est pour offrir.
Si on les achète pas, après, il n'y a plus de choix. Je veux bien qu'on les voit arriver. Allez, 15 novembre, bon, en octobre, c'est ridicule.
Ridicule, pas tout à fait pour ce père de famille.
Ma femme est philippine, ils ont déjà mis les sapins de Noël aux Philippines. Ils font ça 4 mois à l'avance. Donc il y a pire.
Et c'était le tour de l'actualité de la semaine avec Wendy Bouchard sur Europe 1. À suivre, l'œil de Frédéric Dabi.
Quelle perception des Français sur Emmanuel Macron à la mi-mandat? Des sondages tout frais nous éclairent ce soir sur la question.
19h40, vous écoutez Wendy Bouchard sur Europe 1. Voici maintenant l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Dans votre grand journal, chaque semaine, enquête IFOP à l'appui, vous nous éclairez sur la perception des Français. Et ce soir Frédéric, c'est la relation de l'opinion face au président qui vous intéresse. On est dans l'exact mi-mandat d'abord d'Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'on fait un zoom ce soir.
Oui, tout à fait, c'est le mi-mandat d'Emmanuel Macron. Une enquête IFOP fiduciale pour CNews a été réalisée à l'occasion et on voit qu'Emmanuel Macron pâtit d'une insatisfaction majoritaire hein, à 2 ans et demi après son élection, 2 ans et demi avant la présidentielle de 2022. Mmh. 65% des Français sont mécontents de son action et ce sentiment est majoritaire dans toutes les catégories de population.
Alors on va voir tout ça dans le détail avec vous. D'abord, est-ce que traditionnellement c'est une période critique pour un chef d'État, la mi-mandat?
Oui, c'est une période compliquée. On sait très bien que depuis l'instauration du quinquennat, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron étaient systématiquement très impopulaire. Là, c'est un petit peu différent. Les Français reconnaissent clairement une action réformatrice. Ils adhèrent majoritairement à la réforme de la SNCF, aux annonces du 11 décembre post-mouvement des Gilets jaunes, à la réforme du baccalauréat ou du code du travail. Les perceptions d'inaction qui étaient fortement associées à François Hollande ne sont pas là, mais clairement, il y a un angle mort, le compte n'y est pas, notamment en matière de pouvoir d'achat, qui est peut-être le juge de paix de ce quinquennat. Dans une autre question de ce sondage, on demande quel a été l'événement majeur depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. C'est très clairement à 77% le mouvement des Gilets jaunes qui a émergé sous fond de crispation aiguë sur la question du pouvoir d'achat.
Oui, mouvement qui a émergé il y a un an maintenant. Et d'ailleurs, on n'a qu'à regarder ensemble l'augmentation des mécontents de 7 points à 65% aujourd'hui. Il n'était que 58% à ne pas se déclarer satisfait en avril 2018. Les critiques se cristallisent, vous le disiez, sur le pouvoir d'achat, aussi sur les retraites, j'imagine, réforme très sensible.
Oui, ça va être la réforme la plus délicate dans cette troisième année du mandat d'Emmanuel Macron. Là, le jugement est très sévère à trois quarts de personnes mécontentes. Mmh. Il y a aussi une insatisfaction sur les inégalités entre les territoires, malgré les tournées en province d'Emmanuel Macron, et sur la question migratoire. Mais au-delà de l'action, il y a aussi l'image d'Emmanuel Macron qui est particulièrement clivante. Et là aussi, le tableau est un peu mesuré. D'un côté, on reconnaît majoritairement l'autorité, la cohérence du président de la République. On dit qu'il sait où il va, qu'il a un cap, qu'il porte une vision pour le pays. Et là, une fois de plus, il est en rupture avec les critiques associées à ses deux prédécesseurs. Mais il y a un déficit lourd. D'une part, sur la proximité aux préoccupations des Français. C'est toujours ce président dont on dit qu'il est déconnecté des réalités du pays. Et sa capacité à rassembler, c'est un président qui clive beaucoup, alors que le rassemblement, la proximité, c'est deux ingrédients majeurs de ce qu'attendent les Français bien à sûr. L'égard d'un président de la
Alors,
République.
À mi-mandat, il s'en sort plutôt bien Emmanuel Macron sur les relations avec l'Union européenne, sur la lutte contre le terrorisme, l'image de la France à l'étranger. Les Français sont plutôt satisfaits. Ce qui est intéressant aussi quand même de souligner avec cette enquête IFOP pour CNews, Frédéric Dabi, c'est qu'avec un ou une autre président, présidente à l'Élysée, ce serait pire finalement pour les Français.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle je nuance un petit peu les résultats apparemment mitigés de cette enquête à mi-mandat, parce qu'il faut l'examiner, non pas peut-être en comparaison avec ses prédécesseurs, mais à la lumière du nouveau contexte de fin de bipolarisation de la vie politique.
Absolument.
Deux éléments. D'une part, Emmanuel Macron garde son socle électoral, ce qui n'avait pas été le cas pour ses prédécesseurs. Trois quarts de ses électeurs sont satisfaits de son action, et surtout, il arrive à braconner chez un électeur de droite sur deux. Et surtout, vous le disiez, aucune autre personnalité testée, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, de Valérie Pécresse à Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ferait mieux que lui. C'est là le paradoxe de cette enquête. Elle montre clairement un président impopulaire, mais incontournable, faute de réceptacle à ce mécontentement mesuré à mi-mandat. C'est un président qui a fait le vide autour de lui, ce qui est plutôt de bon augure dans la perspective, qui est bien sûr lointaine, de la prochaine élection présidentielle.
Voilà pour ce sondage IFOP. Autre sujet ce soir. Votre œil, Frédéric Dabi, qui a été aussi ému et touché cette semaine par cette annonce, la mort de l'ancienne championne paralympique belge Marieke Vervoort, à 40 ans, atteinte d'une maladie incurable qui, depuis son adolescence, lui paralysait les jambes. Mort par euthanasie, je le précise, mardi dernier, une pratique qui est autorisée, qui est encadrée en Belgique. Et ça vous fait réagir évidemment ce soir.
Oui, c'est d'abord un cas dramatique d'une personnalité sportive extrêmement courageuse qui avait eu la médaille d'or du 100 mètres à Londres, olympique, la médaille d'argent à Rio, qui a fait, malgré la souffrance qu'elle endurait au quotidien, du triathlon en compétition, du basket. Mais je m'intéresse aussi plus largement à ces questions de fin de vie qui remuent beaucoup en France, avec une série de précédents de Vincent Humbert, d'Anne Baird, une personne qui a choisi d'aller se suicider en Belgique, de Vincent Lambert. On a clairement un sujet particulièrement fort, qui est le plus intime de tous, la fin de vie, qui préoccupe et qui angoisse très fortement les Français.
Que disent les sondages en la matière? Une majorité de Français est favorable à une évolution de la loi?
Oui, très clairement, c'est le sujet sur lequel, Wendy, l'écart entre ce que souhaitent les Français, quels que soient les sondages, quelles que soient les méthodologies du quantitatif, du qualitatif, quelles que soient les questions posées, l'écart entre ce que veulent les Français et la législation en vigueur est tout simplement abyssal. Les Français sont très attachés à la notion de liberté et veulent choisir, si cela est nécessaire, leur moment pour partir et leur capacité à organiser les choses sur ce sujet si intime. Et puis, tous les sondages montrent que très majoritairement, et là j'insiste sur ce terme majoritairement, il n'y a pas de clivage particulier en termes de sexe, d'âge, des clivages politiques, des césures religieuses. Les Français sont très majoritairement favorables à la mise en place du suicide médicalement assisté, voire dans certains cas à la légalisation pour une euthanasie active. On est vraiment sur un sujet où les Français ont le sentiment de ne pas être entendus.
On sort des discussions sur les lois bioéthiques qui ont pas mal remué l'Assemblée et l'opinion. L'actuelle mandature pourrait-elle se saisir de ce sujet sur la fin de vie? L'opinion d'Emmanuel Macron est claire sur le sujet?
Elle n'est pas vraiment claire. On se souvient, quand on regarde ses prédécesseurs, François Hollande l'avait mis dans ses engagements de campagne. Il n'avait pas échaudé par la question sociétale du mariage pour tous, voulu remettre un sujet compliqué sur le devant de l'agenda politique. Ce qui est assez notable, c'est que oui, les questions de fin de vie ont été au programme des états généraux de bioéthique récents, mais ils n'ont pas fait l'objet d'une proposition de loi de la part du gouvernement. C'est plutôt des députés de l'opposition, de la majorité, preuve qu'il n'y a pas de clivage ou de séparation politique sur ce sujet. Ce sont eux qui ont plutôt proposé un projet de loi qui n'a pas été retenu par le gouvernement. Mais une fois de plus, et je regarde toute une série de sujets divers, politiques, économiques, sociaux, sociétaux, c'est vraiment sur celui-là où l'opinion est la plus unanime et la plus homogène et a le sentiment que ses attentes ne sont pas prises en charge par le pouvoir exécutif et législatif.
Intéressant, toujours enquête IFOP à l'appui. Merci pour votre œil ce soir encore, Frédéric Dabi, dans le Grand Journal d'Europe 1, et à la semaine prochaine, Frédéric.
Au revoir.
À suivre, Wendy Bouchard.
Une date, une histoire et une personnalité à la clé qui fait appel à notre mémoire. C'est Dave qui se confie sur le premier pas de l'homme sur la Lune ce soir. À tout de suite.
Vous écoutez Wendy Bouchard sur Europe 1, il est 19h49. Les tours du monde en jet privé TMR vous présentent l'entretien de Philippe Legrand.
Un jour, une histoire avec Paris Match et Philippe Legrand. Chaque samedi, vous recevez une personnalité qui se souvient avec nous sur Europe 1. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Bonsoir Dave, bienvenue.
Bonsoir.
Dave, on ne va pas prendre la direction du côté de chez Swan. On va aller un peu plus loin. On va prendre la direction de l'espace. Vous avez choisi de partager avec nous ce souvenir incroyable du premier pas sur la Lune, 21 juillet 1969. Vous étiez où ?
J'étais en tournée avec Nana Mouchkeri, que j'embrasse tendrement parce que j'aime beaucoup. C'était ma première tournée d'été avec Nana Mouchkeri en vedette anglaise. Les gens ne savent plus ce que c'est, mais ça veut dire qu'on en chante 4-5 et les vedettes américaines en chantent à demi-heure. Mais là, j'ai quitté les tournées pour aller faire un festival pour la télévision néerlandaise à Knokke-le-Zoet. J'adore le nom, Knokke-le-Zoet en Belgique. Et c'est là où j'ai vécu ce moment. Et moi, je suis depuis toujours vraiment un lecteur amateur de science-fiction. Donc j'avais l'impression que ça y est, ce qui était science-fiction devenait science, tout court. Et c'était évidemment passionnant pour le jeune homme que j'étais en 1969. Et je crois que tout le monde sait où il était ce moment-là. Il y a deux moments comme ça, en fait. Le deuxième est un peu plus triste, c'est la mort de Coluche. Mais c'est vrai que là, ce moment-là, juillet 69, on s'en souvient.
21, exactement. 8 jours, la durée du vol, et un seul pas, hein ? Premier pas sur la Lune.
Petit
alors,
pas.
Quelles sont les images qui vous restent de ce moment-là?
Je dirais que c'est des images de Jules Verne, c'est des images de Tintin. Souvent, d'ailleurs, dans ma vie, moi qui voyage beaucoup et j'adore ça, je pense à Tintin. Quand je suis à Hong Kong, je pense à Tintin, le Lotus Bleu. Quand je suis dans le désert, je pense à Tintin, le cigare du pharaon. Et là, j'étais entre Tintin et Jules Verne, parce que je suis aussi amateur de Jules Verne. J'ai des grands livres rouges, vous savez, de l'époque, là, avec tout ce qu'a écrit Jules Verne et Paul Dubois, qu'on connaît un peu moins d'ailleurs. Et donc, c'était un rêve quoi, pour l'humanité, un rêve réalisé.
Un rêve positif, avec cette phrase hein, qu'on a tous en tête.
Petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ouais.
C'est une phrase qui vous accompagne aussi encore au quotidien.
Oui, mais malheureusement, il y a souvent 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Mais bon, c'est vrai, je suis optimiste de nature.
Ils étaient 3 dans Apollo 11. Il y avait Armstrong, l'homme justement, le commandant, le pilote qui a posé le premier pas. Collins, le second pilote, et Aldrin, qui a accompagné Armstrong sur le sol lunaire. Beaucoup de prouesses, évidemment du suspense, et l'image, la photo, une caméra embarquée.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai que c'était mais bouleversant, quoi. L'exploit, évidemment, de la science, mais aussi même de l'avoir entrepris, quoi, que l'homme a imaginé d'y aller. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a une vraie suite, mais quand même, on a de l'espoir pour que quelque part on va s'installer un jour. Évidemment, on pense tous à Mars à cause de Bradbury, écrivain de science-fiction exceptionnel. On commence. Là, j'ai lu il y a quelques jours, quoi, on a trouvé un antiplanète, je crois que ça s'appelle, avec de l'eau. Donc, qui sait, s'il y a de l'eau, l'homme peut y aller, parce qu'on en a besoin.
La vie, derrière l'eau.
Ben oui, puis on a 90% d'eau nous-mêmes, il ne reste pas grand-chose dans l'urne, donc c'est quand même très intéressant.
La mission s'inscrivait, vous vous souvenez, hein, cette mission du 21 juillet 1969, la mission d'Apollo 11, s'inscrivait dans un programme fixé par Kennedy, c'était le rêve de 1961. Il y avait ce rêve, mais aussi cette démarche scientifique. Ils ont rapporté 21 kilos de roches et sol lunaire.
Ouais.
Ça fait rêver ?
Ah oui, ça parle quand même. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'aime bien les science-fiction ou le fantasy, parce qu'on peut passer dans une autre dimension. Et là, avec ce voyage vers la Lune, on est passé dans une autre dimension quelque part.
Dave, vous avez raison de dire que vous avez rêvé avec ce premier pas sur la Lune, mais aussi de dire que 50 ans après, on continue cette aventure et on parle même de la vie future, d'autres planètes à découvrir et finalement sortir de cet environnement qui est le nôtre, un peu pollué, pour essayer de tenter de s'installer là-haut.
Tout à fait. Alors il y a une chose qui m'a toujours intrigué parce que j'étais plutôt langue au lycée que maths. Et quand j'ai appris que les lignes parallèles se rejoignent dans l'infini, c'est une chose inimaginable. Parce qu'on dit, les lignes parallèles, comme les chemins, les voies de chemin de fer, ils ne se rejoignent jamais, quoi. Ils restent parallèles. Eh bien non, dans l'infini, ils se rejoignent. Et ça, je trouve ça poétique et je trouve que c'est une histoire d'amour, quelque part.
Histoire d'amour avec le public, elle continue, Dave. Et ce parallèle, vous le retrouvez avec le public, avec Souviens-toi d'aimer. Un nouvel album, il y avait longtemps.
Souviens-toi d'aimer, c'est une phrase de l'abbé Pierre, donc c'est joli. Et c'est vrai que c'est un album d'amour dans lequel, et c'est un peu lié à mon âge, il y a pas mal de nostalgie, de mélancolie même, mais pas de tristesse.
Et on a un peu le sentiment qu'il y a la lune qui n'est pas loin, parce qu'il y a de la poésie dans chacun de ces titres. Hein, une douzaine, Dernier regard, c'est le dernier titre de ce Souviens-toi d'aimer. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
Parce qu'il faut faire les choses quand on en a, je dirais presque plus qu'envie, quand c'est une urgence. Et ça ne l'était pas. J'étais pris par tout ce que j'aime faire à côté, c'est-à-dire j'ai adoré faire de la télé, non pas pour montrer ma petite gueule, mais pour recevoir des confrères. Comme disait Brassens en parlant de Sheila, c'est un gentil copain du bureau, collègue du bureau, il a dit. Mais les autres chanteurs sont des collègues du bureau pour les chanteurs que je suis. Et je me suis jamais pris pour un animateur, mais ma légitimité était dans le fait que je suis chanteur et que je savais de quoi je parlais, quoi. Ça ne veut pas dire que les animateurs ne le savent pas, mais pas de l'intérieur. Et j'adorais faire ça. J'ai écrit. Donc, quand on me parlait de nouvelles chansons, j'avais comme un rejet. C'est comme si on me parlait des betteraves. J'aime pas les betteraves, par exemple. Et là, un jour, il y a quelques années, je disais dans un dîner avec Renaud, que je vois pas mal à Luxe-la-Sorgue, où il est devenu le René Char d'aujourd'hui, quelque part. Et je disais qu'il faut peut-être un de ces jours que je fasse un album. Et il dit avec sa grosse voix que je n'imiterai pas. Ah oui, la France n'en peut plus, c'est vraiment urgent. Donc, je foutais vraiment de ma gueule. Et je dis, tiens, on va voir ce qu'on va voir. Donc, on a commencé à travailler dessus. Et c'est lui, finalement, qui a dit ces paroles inoubliables. Mais je produis, après avoir entendu quelques chansons, ça lui a plu, ça l'intéressait, donc il m'a produit.
L'album s'appelle, Dave, Souviens-toi d'aimer. Vous serez sur scène à Bobino le 18 novembre. Merci de nous avoir fait rêver deux fois. Une fois avec cette date du premier pas sur la Lune et ce nouvel album qui arrive. À bientôt.
Merci vous, à bientôt.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR. Célébrer les 70 ans de Paris Match en participant au 45e Tour du Monde en jet privé. Info sur tmrfrance.com.
Album de Dave enregistré en Belgique. Fabien Lecoeur, vous êtes toujours avec nous. Mmh. Patrie d'une autre artiste que vous voulez mettre en lumière ce soir. Quelle chanteuse ! De l'éclectisme sur Europe 1. On adore Annie Cordy. Je trouve que vous avez passé la journée avec elle hier à
absolument.
Cannes, à Nice.
J'étais à Cannes hier soir, parce qu'elle habite Cannes hier après-midi, toute l'après-midi, toute la soirée. Et je dois dire qu'elle est en pleine forme. Elle est dans sa 92e année.
Oui.
C'est quand même incroyable. Elle a gardé toute sa mémoire et elle a passé son après-midi à me raconter plein d'anecdotes, dont une que je trouve délicieuse parce qu'elle était montée à Paris un 1er mai 1950. Et pour cela, elle avait quitté le fiancé qu'elle avait en Belgique à l'époque, et qui était un dompteur qui apparaissait toujours en slip panthère dans toutes les soirées et dans toutes les réceptions. Donc voilà. Donc
ça pour l'homme de sa de vie, courage. Un fameux Bruno, qui fut son impresario. Dave et Annie Cordy, il y a un lien aussi.
Il y a un vrai lien. Moi, je les ai vus sur scène en décembre 1975 à l'Olympia, puisque c'est Annie Cordy qui avait choisi Dave en toute première partie de son tour de chant à l'Olympia. Et le spectacle était présenté par Patrick Sébastien. C'est d'ailleurs la première fois que je voyais, moi aussi je rencontrais pour la première fois Patrick Sébastien.
Ça nous fait plaisir que vous nous donniez de bonnes nouvelles d'Annie Cordy.
Ah oui, elle est en
pleine avec
forme.
Votre brioche que vous trempez dans le rhum, je vous propose un peu de chocolat.
Hein. Absolument. Voilà la tube énorme.
Elle a cette fantaisie incroyable, non, toujours Annie Cordier,
gardé,
dans l'œil.
Elle a gardé cette espèce de jeunisme incroyable et cette pétillance. C'est incroyable. Le disque qu'on vient d'entendre, c'est 500 000 exemplaires quand même. Hein. Mm-hmm. Faut quand même rappeler qu'il y a quand même eu un vrai public qui a grandi et plusieurs générations avec les succès d'Annie Cordier.
Eh bien, merci. Voilà pour la petite anecdote conclusive. Avant de vous retrouver demain, chers amis, à partir de 18h pour le 18-20, Naïma Bencheman m'aide à préparer cette émission. Kevin Ousti la réalise. Marlène,
à demain.
Commande. À demain. Merci, chers amis auditeurs, et merci à Léna qui est venue nous faire un petit coucou en studio. À demain.